Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip, à grosses gouttes d'huiles essentielles. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up tous les shows de la WWE, mais pas que, cette semaine on se retrouve dans le monde merveilleux du show vert. Vous êtes bien, vous êtes dans la 13e édition de You Talk Too Much. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcatchs. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, et c'est un truc qui nous plaît bien d'ailleurs à Catch Up, on est en triple frite, puisque je n'ai pas un, mais bien deux invités. Aujourd'hui, je reçois des confrères, on pourrait dire. À You Talk Too Much, on est habitué de recevoir des auditeurs, recevoir des catcheurs, recevoir des commentateurs. Et bien là, on va recevoir des commentateurs confrères. On reçoit tout simplement nos amis Mehdi et Félix, nos amis de CatchaCast. Salut les gars!
Bonjour!
Salut, salut!
Alors, qui est Mehdi? Qui est Félix?
Eh ben, l'imbécile heureux qui prenait un accent du sud dès qu'il est stressé et qu'il va dire des bêtises, c'est Mehdi.
Ok.
X, c'est le petit moustachu que vous ne voyez pas à l'écran parce qu'il n'y a pas d'écran et que vous écoutez par les oreilles.
Ah, Félix porte la moustache?
Ouais. Ouais. Ah. Il tente des looks comme ça pendant le confinement. Voilà.
Pas le cuir en ces temps chauds.
Réponse collégiale. Et, c'est sympa d'avoir un moustachu parmi nous à You Talk Too Much. Je me demande si tu n'es pas une première mondiale chez nous.
Oh là là, c'est beau.
Alors, on va expliquer un petit peu à nos auditeurs qui vous êtes. Surtout, c'est surtout vous qui allez expliquer qui vous êtes. On va surtout expliquer d'abord que, en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît par le biais des médias interposés, des réseaux sociaux, etc. Yes. Que ça fait longtemps qu'on se dit, tiens, il faudrait qu'on se fasse un petit crossover CatchaCast et CatchUp, qu'on puisse un peu causer de notre passion commune pour l'ignoble sport. Donc, du coup, je vais vous laisser un peu vous présenter un peu à la famille de CatchUp. On va commencer. Alors qui est le plus âgé des deux là?
Ah bah moi.
Ah c'est toi? Ok.
Bon, alors c'est vrai que la moustache peut prêter à confusion. mais en réalité c'est moi. Ouais, tout à fait.
En réalité c'est toi. Alors écoute, on va commencer avec le doyen dans ces cas-là sans faire injure aux plus jeunes. Mes amis de CatchaCast. Alors expliquez-nous un peu tout. Expliquez-nous d'où vous arrivez, comment vous êtes lancé dans cette affaire de podcast sur l'ignoble sport, et puis voilà, nous raconter un peu la genèse de CatchaCast.
Ouais, on va faire ça. Simplement, moi c'est donc Mehdi, j'ai 10 ans de podcast dans les pattes si je compte jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé avec un podcast qui s'appelle Je Game Moi Non Plus, qui fait de l'analyse. C'est un peu dans la même veine en réalité que CatchaCast, c'est-à-dire c'est de l'analyse, on va dire, un peu plus poussé, un peu plus, on va dire, culturel, comme on dit, du jeu vidéo, sauf que le CatchaCast, c'est devenu guindé, tout à fait. C'est devenu, devenu après le CatchaCast qui a pris le relais. Et c'est, en réalité, ça, c'est venu naître d'une discussion très régulière autour du catch. Et surtout, alors c'est beau, c'est l'instant émotion, préparez-vous chez vous, les auditeurs, auditrices, c'est la transmission de la passion du catch qui s'est faite dans un premier temps avec mon copain Jérôme, qui est un des autres chroniqueurs de l'émission. Je ferai un récap après de la team dans son intégralité, mais à qui j'ai remis le pied à l'étrier du catch, parce qu'il avait un peu laissé tomber. Moi aussi, à une période pendant quelques années, je suivais que très de manière distante le catch en règle générale. Et de là, on s'est dit, vu qu'on a la passion du podcast, vu qu'on en a enregistré ensemble avant ça, et si on faisait un podcast sur le catch? Et donc, de là est née cette volonté, et le premier numéro que, si vous me connaissez ou pas, si vous allez nous découvrir grâce à CatchUp, et merci à eux, le premier numéro du CatchaCast qui disait c'est quoi la retraite en fait pour un catcheur? Quand est-ce qu'on arrête de catcher, avec l'actualité à l'époque brûlante et les allers-retours en termes de retraite de l'Undertaker, ce qu'on pensait à l'époque c'était vraiment fini, mais en réalité il est revenu encore à une ou deux reprises depuis. Et de là est né effectivement le CatchaCast, avec une volonté sur le premier numéro d'expliquer les bases, c'est quoi un heel, c'est quoi un face, c'est quoi un tweener, et voilà. Et après ces premiers numéros, on a été, et je vais lui redonner la parole, contacté par un certain Félix, voilà.
Alors non, je n'ai pas contacté, c'est toi qui m'as contacté, mon cher ami.
C'était à quel moment?
Oh, je ne sais plus, mais on avait interagi un peu sur Twitter ensemble. Et j'avais dû écrire, parce que moi de base, Félix, je viens de Catch au quotidien.
Ah, d'accord, ok.
Voilà. Voilà. Je fréquentais aussi un peu les cahiers du catch, mais en
Ah, décidément.
J'ai jamais écrit dans les cahiers du catch, même si l'envie m'en avait pris, mais j'avais bifurqué sur Catch au quotidien. Ils avaient monté un site qui s'appelait indie-fr pour tout ce qui était catch non WWE, qui a finalement été phagocyté dans Catch au quotidien. J'y faisais un bulletin hebdomadaire, un bulletin indie, sur donc le catch de la Ring of Honor, de la PWG, de la Chikara, tout ça, tout ça. Et puis j'ai commencé à faire des articles un peu plus de fond, on va dire, d'analyse de pay-per-view, puis après d'analyse de thématiques et tout ça. Et au fil de l'eau, après j'ai fait mes blogs perso, parce que avec Catch au quotidien, le rythme était tellement soutenu que avec les études, le boulot, tout ça, c'était difficile. Et donc c'est par Twitter que toi, Mehdi, il me semble. Ouais. Hein,
j'ai confondu, je me suis souvenu. La vieillesse est un naufrage.
On s'est fait un Starbucks.
Je confirme.
On s'est fait un Starbucks, moi avec une casquette CM Punk, toi avec un t-shirt Young Bucks. Et donc j'ai participé à mon premier catchacast et après je n'ai jamais regardé en arrière.
Je confonds avec un autre ami, collègue qui était sur le jeu.
Ah bah bravo!
Qui nous a rejoint en cours de route, mais il portait la pilosité assez poussée lui aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai confondu, qui lui nous avait contacté. Mais autant pour moi, comme disait Félix, c'est moi, après quelques échanges via Twitwi, qui dit ce serait bien qu'on se rencontre, et avec l'idée quand même en tête assez poussée, ce serait cool qu'il rejoigne le crew. Voilà.
Alors, depuis quelle année existe Catchacast?
Bonne question, ça fait 3 ans et demi. Je vais revérifier exactement. Parce que je sais que globalement, sur l'ensemble des podcasts, parce que le Catchacast, comme Je Game Moi Non Plus, fait partie d'un gros ensemble qui s'appelle Death Podcast, ou 10 Podcast, hein, on n'en veut pas aux gens qui prononcent comme ça, parce que ça s'écrit D-E-E-Z. Mais je vais revérifier en flux tendu, mais je te laisse effectivement donner du rythme sur les autres questions pour pas casser le rythme de l'émission en attendant.
Déjà, j'ai envie de commencer l'émission déjà sur les choses simples, c'est où est-ce qu'on vous trouve ?
Eh bien, très bonne question. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes audio possibles et imaginables, enfin quasiment, donc SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous nous retrouvez grâce à l'ami Félix qui fait un boulot niveau com global monstrueux, donc sur YouTube également. Et voilà, grosso modo, c'est...
Twitter, @catchacast, Facebook, @catchacastdzp.
Instagram.
Voilà, Instagram. Et puis, donc, Death Podcast, c'est un peu la houlette dans laquelle fait partie Catchacast. Donc, il y a d'autres podcasts comme Je Game, Moi Non Plus, sur le jeu vidéo. Il y a aussi La Fin Absolue du Monde, qui est plus sur la pop culture, même si Mehdi déteste le mot pop culture. voilà. Et donc, il y a aussi Death Podcast au pluriel.fr, où on peut... Tout n'est pas mis à jour, j'avoue, mais on peut retrouver en l'univers des podcasts, dont Catchacast fait partie.
Sûrement profiter de l'été pour mettre tout ça à jour. Et pour te répondre, donc 27 août 2017, précisément.
Oh oui, d'accord. En fait, vous êtes créé pas très longtemps après Catch-up. Catch-up qui existe depuis avril 2016.
Voilà, avec effectivement cette émission. Qu'est-ce qu'une carrière dans le catch ? Premier numéro.
Premier numéro.
Ouais. Tout premier numéro et après pas mal d'autres qui ont suivi jusqu'au numéro
42e.
C'est ça, avec celle qui arrive, on en sera au 42e en excluant ou pas, non on les compte dedans, les hors-séries. Enfin, il y a aussi eu des hors-séries, mais on en reparlera un petit peu plus tard probablement.
C'est assez drôle parce que finalement on est très cousins, j'ai envie de dire, parce qu'on a beaucoup de points communs sur différentes choses. Et déjà sur le fait des plateformes sur lesquelles vous travaillez, vous évoluez, etc. Avoir une présence sur YouTube aussi. Tout ce background que vous venez d'expliquer là, quand j'entends Félix là, qui parle de catch au quotidien ou des cahiers du catch, je pense que vous le savez, nous à Catch Up, on est tous en fait des anciens rédacteurs des cahiers du catch.
Yep.
Comme vous, on a fêté nos 5 ans là, la semaine dernière avec une émission phare que je vous recommande d'aller écouter, qui est en ligne, où on raconte un peu toute la jeunesse de Catch Up. Et finalement, j'ai trouvé ça assez drôle et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir échanger avec vous pour faire finalement des comparatifs sur ce qu'on vit sur la vie et l'œuvre de nos podcasts respectifs.
Ouais.
Alors, je pense que la base déjà pour tout le monde, en fait, ça va être un peu de savoir. Déjà, j'aurais voulu savoir, c'était quel âge vous avez tous les deux?
Moi, je vais sur mes 27.
Ouais, et moi, je vais bientôt avoir 36 piges.
D'accord, ok, ouais, donc t'es dans la génération. Et toujours dans la cousinade, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, vous fonctionnez en équipe aussi, tout comme nous.
Ouais, ouais, oui, et on va les nommer, hein, tant qu'à faire, c'est ce qu'on disait.
Bah oui, carrément.
Ouais, on a Jérôme, effectivement, historiquement, qui a été rejoint, et c'est ça qui est beau, c'est un peu comme dans le catch, hein, y a eu des va-et-vient. On a eu commencé avec Guillaume, qui avait commencé avec nous, mais qui finalement est revenu que beaucoup plus tard sur certaines des émissions récentes. On a eu également Michael, que vous pouvez aussi connaître, ça, on s'occupera de ça dans le billet et compagnie, mais qui est un illustrateur qui s'appelle Origoto, de son pseudo, qui fait plein d'illustrations, allez, je vais faire plaisir à Félix, de pop culture. Et grosso modo, on a également Laure et Raphaël. On a également...
Laure et Raphaël, qui sont des globetrotteurs de catch, qui font
du catch FR et en général.
Qui vont souvent...
Je suis fou, moi, mondial même.
Bah ouais, qui vont souvent au Japon, qui se font des shows de catch qui sortent de nulle part, mais qui ont l'air extraordinaires et tout ça.
C'est un peu comme les enseignes, tu sais, de magasins ou de restos. C'est, y en a, c'est Tokyo, Paris, Guingamp. Eux, c'est Tokyo, Paris, Bruxelles, Verdun. Ouais, ils sont partout et avec une bonne humeur communicative et puis très très carré et pragmatique sur les analyses. On a fait d'ailleurs une émission spéciale. 4 japonais où vraiment ils ont fait pourtant avec Félix on grappille pas mal sur même les trucs assez dark et ils nous ont fait découvrir des trucs assez géniaux au-delà des classiques évidemment DDT, NJPW, Noah et compagnie. Donc ouais, est-ce que je m'en voudrais terriblement.
Il y a Mathieu aussi.
Mathieu bien sûr qui nous a rejoint il y a peu, j'allais terminer avec lui. Mais je crois n'avoir oublié personne. On a eu Volodia aussi, qui lui-même est elle-même pardon est catcheuse et du coup nous avait gratifié de quelques numéros, dont un monumental sur les visuels dans le catch. On a bien trollé les visuels d'affiches, mais de manière constructive, hein, du manque de moyens clairs, moyens financiers et temps pris pour la com sur les affiches, etc. Donc c'est bien, parce qu'en vous parlant des personnes, on peut vous parler de différents numéros pour que les gens se fassent une petite idée.
Et Volodia aussi, qui était à l'orga, entre guillemets, à PC Catch.
À PC Catch. Et
qui
en
avait
général.
Même organisé un petit show un peu à la NXT, on va dire. NXT de APC Catch, hein. À la Lucha Libre, le bar Lucha Libre.
D'accord, ouais.
Où d'ailleurs, on avait fait
une season finale
de Catch à Casse il y a très longtemps, où il y avait des gens de catch-up, il me semble, qui avaient dans le public. Je me rappelle
fait
plus
le plaisir
exactement.
C'était le 7 septembre 2018. Ça a été publié.
Maintenant, on sort toutes les dates.
Voilà. C'était peut-être IRM qui était là, je sais pas.
C'est IRM.
C'est ça.
Ah, c'était IRM. Ah, ok, d'accord, ouais. Ok, ça marche. Ah ouais, donc vous êtes vraiment une équipe, c'est comme nous, quoi. Vous êtes quand même pas mal, donc vous alternez sur les analyses et tout ça, comment ça se passe, comment vous êtes organisé?
C'est exactement ça.
Bah, dernièrement, c'est vrai que les deux piliers, c'est Mehdi et moi, mais à chaque fois, on...
L'alcool en moins, malheureusement.
Suivant les sujets, les thèmes, on va proposer, Michael, il est très WWE, par exemple, on va lui proposer un sujet qui parle pas mal de WWE.
On l'a mis à la NJPW.
C'est vrai. Laure et Raphaël, c'est plus, par exemple, on les a invités plutôt sur un podcast de catch hardcore, parce qu'ils avaient assisté à ce genre de catch au Japon, ils avaient vraiment une expérience de terrain, on va dire, là-dessus. Mais souvent, si on n'a pas forcément des côtés un peu rubriques spécialisées ou je sais pas quoi, on est vraiment en mode open, on dit aux gens on va faire tel sujet, qui ça intéresse, on veut pas non plus qu'il y ait 10 000 personnes dessus, mais voilà.
Ouais.
Vous êtes comment ça se passe en fait, votre ligne éditoriale un peu vous savez un peu, nous à Catch Up, de toute façon notre fonds de commerce, on va dire, c'est les reviews WWE, tout ce qui concerne Raw, SmackDown, les pay-per-view, etc. Mais on fait aussi pas mal d'AEW, et puis après on a des éditions spéciales, des choses comme ça. Je commence à bien vous connaître parce que j'ai regardé quand même pas mal de vos vidéos et je suis un peu, j'ai un peu vu que vous étiez des spécialistes de l'indie, entre autres. Mais globalement, en fait, oui, votre ligne éditoriale, comment vous vous organisez, quel est le... Comment vous décidez finalement les reviews, comment ça se passe, quoi.
Bah, ce qui a fait qu'on s'est démarqué déjà depuis le début, et je pense que c'est ce qui a intéressé et qui a fait que Félix nous a rejoint, c'est justement cette approche du catch thématique, dans le sens où c'est peut-être ce qui nous démarque. En tout cas, c'est ce que les copains du podcast du catch et les gens qui nous écoutent nous disent, c'est que c'est vrai qu'on se démarque dans une dimension. Alors, quand je dis de fond, attention, hein, parce que sinon ça va faire genre gros snob, grosse marque du catch, mais dans le sens où il y a des gens qui ont, parmi votre team ou les autres, qui vont vraiment avoir des trucs de fond sur les catcheurs, sur les fédés, sur les événements, machin. Mais nous, on essaye vraiment de faire un petit peu, de concentrer sur une thématique vraiment précise qu'on essore, hein, jusqu'au bout, histoire de faire comme catch-up, hein, de transpirer par toutes les pores de la peau. Et grosso modo, c'est principalement comme ça que ça fonctionne quand on construit une émission. On lance une idée et on se dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait la déconstruire au maximum, en faire un axe, un plan et...
Par exemple, Inside Baseball, entre guillemets, donc on vient d'enregistrer un podcast avec Nathan de Wrestling to the Mat,
ouais.
Que vous avez
que eu. Que je connais, que j'ai eu ouais, à l'antenne avec moi, ouais.
Et donc là, c'était comment on étudie l'histoire du catch.
Ouais.
Donc voilà,
c'est super.
Un truc vraiment précis qu'on va essayer de décortiquer. Et souvent, on trouve des sujets connexes ou alors des sujets rebonds qui peuvent donner lieu plus tard à d'autres podcasts. Notre dernier podcast disponible là pour le moment, on s'est intéressé au botch. Voilà,
ouais.
En quoi...
Je l'ai vu.
Voilà. Donc, voilà, est-ce que Botchamania, en quoi c'est un phénomène, etc. Et on essaye de... Moi, je viens d'un background de journalisme scientifique, donc on essaye vraiment de vulgariser à fond, d'essayer de rendre accessibles ces thématiques-là, parce que le catch, déjà... C'est un sport, mais aussi un spectacle, c'est un art, c'est un cirque, c'est du théâtre, etc. Donc, pour plein de gens, ça a l'air intéressant, mais c'est difficile de tout comprendre. Et en même temps, il y a énormément de jargon, de trucs dans le ring, en dehors du ring, dans les coulisses et tout ça. Donc, c'est essayer de... Voilà, aujourd'hui, on va prendre tel sujet, on va essayer de vous l'expliquer, de vous décortiquer, de vous dire dans quel contexte il est né... d'où il vient, comment ça se passe aux États-Unis, comment ça se passe au Japon, comment ça se passe en France, etc. Voilà.
Et surtout, ça s'est fait de manière assez fluide. Ça n'a pas été un calcul, mais on a une équipe, et ça, j'en suis très heureux sur la plupart des émissions, que ce soit le Catchacast ou toutes celles de Dispostcast. On a une équipe qui est vraiment très plurielle dans les approches. Donc on va avoir Félix qui a parlé de son background journalistique et aussi scientifique, moi qui viens aussi du domaine de la recherche et qui m'intéresse aussi au domaine du jeu vidéo en tant que prof en game design, Michael qui va avoir sa sensibilité d'illustrateur et aussi de game designer parce qu'il a créé des jeux.
Et aussi de réel parce qu'il a fait une école de cinéma.
Réel, oui, par rapport au cinéma. Voilà, et donc il y a toujours cette volonté, comme l'a dit Félix avant, de déconstruire en donnant... consciemment ou inconsciemment, toujours des points de repère pour les gens. Donc, soit ça va être des articles qu'on aura été chercher, soit ça va être notre expérience perso, pour encore rebondir sur le podcast qu'on vient d'enregistrer. Moi, j'ai fait beaucoup de parallèles entre le domaine de la recherche de Nathan en tant que chercheur en histoire, avec celui auquel je suis confronté des fois quand j'écris des articles scientifiques sur ce qu'on appelle les game studies, donc les études de jeux vidéo. Donc voilà, toujours trouver des parallèles. Je suis assez branché jeux vidéo, donc forcément, tout ce qui est actuel, que ce soit à l'AEW, actuel, c'est pas mal, à l'AEW ou ailleurs, ça m'intéresse. Avec Félix, on a toujours dans les cartons une émission sur jeux vidéo et catch, voir voilà, comment c'est proposé, etc. Enfin voilà, il y a... Ça se fait aussi par atome crochu. Laure et Raphaël, bah, c'est venu assez spontanément. Ah ouais, on voyage. Donc Félix, on se tourne l'un vers l'autre. Je dis, mais putain, en fait, c'est génial. Vous nous racontez ça comme c'était normal. Mais en fait, il y a des gens qui seraient hyper fascinés de vous entendre parler de votre en mode carnet de bord, journal de bord.
D'avoir les bons plans. Et
ouais, tout. En plus, un guide du routard. Vous
trouvez à Osaka telle promotion de catch qui fait du catch dans une piscine ou je sais pas quoi. Tu vois.
Ouais, vous venez en fait du milieu du... Enfin, apparemment toi, Mehdi, ouais, du milieu du gaming. C'est marrant, c'est quelque chose que je retrouve très souvent finalement. Il y a beaucoup de fans de catch qui sont souvent liés à ce monde-là.
Jamais moi.
Je sais pas à quoi c'est dû en fait, ça. Je connais pas l'explication de ça.
Disons, mon intuition, c'est que c'est lié à un vivier déjà pop culture, où de toute façon, dans le catch, faisait partie un peu de la marmite dans laquelle on est tombé à des âges différents tout gosse. Et puis, si tu regardes bien au niveau du jeu vidéo, il y a toujours énormément de clins d'œil au catch. Hein. C'est assez fou, il y a plein de jeux, en particulier japonais, faut pas charrier.
Et en particulier jeux de combat, évidemment.
Et pas que, franchement, il y a beaucoup de jeux action-aventure qui sont... Mais t'as raison. C'est vrai que tu regardes les petits appels du pied entre Capcom avec Street Fighter depuis quelques années à la EW, avec un personnage de Cody et sa nouvelle tenue additionnelle qui ressemble très curieusement à celle d'un certain Cody Rhodes. Effectivement, un Kenny Omega qui a eu son move signature pendant des années avec Kota Ibushi en mode Hadouken et en solo aussi. Donc voilà, c'est pas très très surprenant. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont fait toutes leurs jeunes années sur la PlayStation ou même avant sur Super Nintendo avec des jeux ça et là, plus ou moins réussis.
Et puis, moi, j'en avais...
Oui, c'est vrai.
Il y a quelques temps, je travaillais au Journal du Geek et j'avais consacré une enquête sur voilà, en quoi le catch pouvait être intégré dans la culture geek. Et j'avais interrogé pas mal de catcheurs. J'avais interrogé aussi genre Sturry, Lynx the Sun... Ravage, Tristan Archer, etc. Mm. Et il y a quand même pas mal de pratiquants du catch, de personnes impliquées dans le milieu du catch qui sont eux-mêmes geeks et qui imprègnent leur performance ou leur personnage ou leur costume de culture geek. Enfin, Ravage et Tristan Archer, par exemple. Tristan Archer, c'est un fan de Dragon Ball et ça se voit dès qu'il a... Souvent quand
il a ses bras, quoi.
Ouais, voilà. Donc il y a aussi ça, toujours des ponts entre les deux d'une manière ou d'une autre. Mm. Un fan de catch qui va être fan de jeux vidéo parce que son catcheur préféré s'y intéresse, l'inverse. C'est pour ça que je pense que le catch il a un côté vraiment geek aussi, dans le côté vraiment fan un peu obsessionnel qui veut tout savoir de l'histoire de la WCW dans les années 80. Voilà, il y a un peu ça aussi chez certains geeks dans certains domaines particuliers.
Vous avez raison, on retrouve ça chez les catcheurs. De toute façon, je pense par exemple à Shanna, à la IW, enfin maintenant ex-IW, on peut dire, qui aussi portait des tenues en hommage à Dragon Ball. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le catch.
Ouais, avec sa tenue Dragon Ball à un moment. Arufa avec un truc, on ne sait pas trop si c'était 300 ou God of War. Enfin voilà, il y a vraiment des va-et-vient.
De toute façon, on ne sait jamais avec lui.
Mais finalement, vous savez, cette pop culture-là, avant même l'avènement des jeux vidéo, etc., elle existait déjà dans le catch des années 80, et j'ai même envie de dire dans le catch des années 70, où il y avait des références. Alors, les tenues étaient peut-être moins travaillées qu'est-ce qu'elles ne sont maintenant, mais finalement, ces références-là dans le catch, elles ont plus ou moins toujours existé, quoi, de manière prééminente ou pas, mais elles ont toujours été là, quoi. Alors, je reviens un peu sur vous, là. Moi, je vous suis... En fait, moi, ce que j'aime à CatchaCast, peuple de catch-up, c'est que je trouve que vous êtes une chaîne éclectique. Et ce que j'aime quand je viens chez vous, c'est que nous, on va dire qu'à Catch-Up, on est ciblé sur un truc assez particulier. Mais vous, c'est vraiment éclectique. On va pouvoir parler de tout. On va autant parler de la NJPW que de la IW. On va passer sur WrestleMania. On va revenir sur des trucs spécifiques liés, par exemple, au botch. On en parlait au tout début, là. Vous allez parler de catch hardcore. Vous allez parler survoler tout le paysage catch, et c'est vachement intéressant. J'avais beaucoup aimé un truc que vous aviez fait il y a 5-6 mois, alors excusez-moi sur les dates, hein. Nous on en enregistre beaucoup aussi, donc, et comme j'écoute pas mal de choses aussi de différents podcasts et de différents youtubeurs, mais par exemple vous aviez fait une émission sur Glow, si je ne me trompe pas, sur la série Glow. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant, comme j'avais trouvé super intéressant un truc que vous aviez fait, alors je crois que c'était avec une femme, vous aviez fait une émission sur le catch et le journalisme.
Oui, avec Sabi Kanrana.
Ouais, voilà, et je trouve que c'est un des particularismes de votre chaîne, où vraiment, on peut venir sur Catch à Catch et se dire, voilà, c'est pas la WWE que j'ai envie de voir, ou j'ai envie d'écouter, et j'ai envie de m'intéresser à autre chose, et chez vous, en fait, on va trouver... tout ce mélange des genres, et je trouve ça vachement intéressant. Est-ce que vous avez des parties favorites? Est-ce que Mehdi, toi, tu vas être plus WWE ou NJPW? Est-ce que Félix, il va plutôt être branché indie? Ou le contraire? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Oui, il me fait un geste de la main. Qu'est-ce qu'il est, il est beau dans la générosité. Vas-y, vas-y. les deux animateurs du sentier. la vérité, si je catch. Moi, de mon côté, alors en fait, ça s'est fait en deux temps, mais j'ai pas trop envie de manger sur la suite des questions, mais je vais un peu spoiler sur mon rapport et mon histoire au catch. Moi, j'ai été comme pas mal de monde avec la découverte de la WWE étant gosse. Donc, avec mon âge, vous imaginez, hein, effectivement, je devais avoir entre 5 à 10 ans au moment où ça a explosé. J'étais exposé effectivement au catch WWF à l'époque. Et en l'occurrence, qui est devenu pour les plus jeunes, mais ça, je vous insulte pas si vous êtes sur catch-up, vous savez, la WWE. Et ensuite, donc, j'ai eu une petite période un peu de break, comme dirait Torugano à la NJPW. Et justement, j'ai un électrochoc avec ce qui reste pour moi le plus grand match de ma vie, qui est effectivement le match Kenny Omega Kota Ibushi à la DDT, qui a été vraiment un choc à tous les niveaux, qui en plus j'ai pu encaisser, je dirais, avec une maturité qui était ni celle d'un ado, ni plus tout à fait celle d'un jeune adulte, etc. Avec tous les codes du catch relativement intégrés, digérés, avec tout ce que j'ai pu apprendre dans ma vie entre-temps, et le truc m'a clairement orienté très fortement vers le catch japonais, avec la NJPW bien en tête, et puis après, petit à petit, par effet de ricochet, pas le catcheur, les différentes sphères, la Noah, la DDT que j'ai déjà citée, la NJPW, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que j'ai toujours une petite sensibilité, mais je l'ai déjà eu déjà en amont pour la culture japonaise en règle générale, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans tout. J'ai une sensibilité là-dessus et j'y suis revenu par cet exemple que je viens de donner. Donc je dirais, si vraiment genre je devais partir avec un network sur une île déserte, ce serait, je pense, celui de la NJPW.
Et toi, Félix ?
Et moi, ça a été...
Et plus jeune.
Oui, déjà, ça a été évolutif. Moi, je suis de la génération NT1, Catch Attack. C'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, avec CM Punk et 2011 et tout, les carcans qui s'ouvrent, etc., avec sa promo qu'on connaît tous par cœur maintenant, j'ai découvert la Ring of Honor, j'ai découvert la New Japan, j'ai découvert plein de choses, plein. Tout un pan de catch que... voilà, moi, avant, je regardais la WWE et la TNA. Voilà, ça se résumait à ça. Et je savais... En fait, j'avais pas vraiment conscientisé le fait qu'il y avait énormément d'autres catchs à voir. Mais en fait, à cette époque-là, même s'il y avait Internet, YouTube, etc., il n'y avait pas encore autant d'accessibilité que ça, autant de promotion pour ce genre de d'autres promotions, en fait, d'autres fédés. Il n'y avait pas encore vraiment l'essor de Twitter comme on a aujourd'hui, etc. Et donc, c'est par ce truchement-là, par CM Punk, etc., que j'ai découvert d'autres catchs. Et en fait, je me suis progressivement éloigné de la WWE. Je me suis plus accroché à la New Japan et à tout ce qui était alternatif. La EW, moi, je regarde religieusement. Je regarde pas tout, je regarde pas les Dark et compagnie, j'ai quand même une vie. Mais
tu regardes pas Elevation.
Non. mais voilà, donc maintenant, c'est vrai que moi j'ai quand même mon côté très passionné, très addictif et très curieux, on va dire, c'est la déformation professionnelle ou alors c'est le côté maladif de ma propre personnalité, je sais pas quelle est la meilleure façon de le dire, mais je suis tout ce qui peut être suivi dans le catch, WWE, tout ce que tu veux, le versant économique, le versant politique, le versant coulisses, le versant in-ring, le versant qu'est-ce qui se passe en Italie, qu'est-ce qui se passe là-bas.
On a un Discord qui en témoigne. Hein.
et donc ça, j'arrive à suivre, même sans regarder Raw ou SmackDown, et je regarde WrestleMania, et je me tape de temps en temps quelques matchs en pay-per-view, quelques NXT, mais ça s'arrête là. Voilà, c'était ça la question. J'ai l'impression que je me suis.
Non, c'était ça.
Si j'avais une fée des choix, en ce moment, j'avoue, je me fais beaucoup critiquer là-dessus sur Discord par Mickaël notamment. Je l'ai dit. C'est surtout la EW. C'est vrai que je regarde beaucoup moins de catch que je regardais avant, même si j'en suis quand même. Tous les jours, je m'abreuve d'actualités catchesques, d'articles de fond, d'actualités, etc. Mais en termes de consommation, C'est l'AEW, c'est Dynamite toutes les semaines, tous leurs pay-per-view, etc.
C'est bien.
Et c'est la New Japan, les gros shows, on va dire. Même ça, je ralentis un petit peu. Et puis, dès qu'il y a des trucs intéressants, nouveaux à voir, ou même des shows qui m'intéressent, vraiment de niche, moi, j'aime beaucoup, par exemple, Mehdi, il n'est pas trop fan, par exemple, mais moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu connais, Chris, mais Bloodsport, Josh Barnett's Bloodsport. C'est,
Connais un petit peu, mais je ne suis pas spécialement, quoi. Mais d'accord. Je connais un peu, ouais.
C'est la Fédé Game Changer Wrestling qui propose ça. C'est du
ouais.
Moi j'aime beaucoup par exemple, alors que je suis pas fan de MMA bizarrement, mais voilà, donc ça je suis capable de regarder aussi. Voilà en gros, et puis je regarde pas mal de catch rétro aussi de temps en temps, mais c'est plus c'est pas directement, c'est plutôt indirectement par le biais de trucs comme OSW Review ou l'Attitude Era Podcast, ce genre de choses quoi.
D'accord. Et le catch français, tous les deux, vous en êtes où par rapport au catch français?
Oui, toujours. Je tenais juste à préciser par rapport à ce qui était dit pour Bloodsport. C'est, quand je dis tu dis je n'aime pas, hein, c'est simplement, je précise, tout ce qui est visuellement et le produit en tant que tel, c'est très chouette. C'est simplement que pour moi, ça se rapproche, comme tu l'as dit, beaucoup plus du free fight, de la MMA et... Je vois plus trop la frontière. Bon, c'est un peu l'enjeu hein, aussi de la proposition. Mais, et je tenais à préciser, en rendant à César ce qui est à César, c'est que Félix m'a vraiment donné, en le côtoyant, une curiosité que j'avais déjà, mais vraiment une boulimie à aller chercher, notamment parce qu'il a un œil et une sensibilité cinématographique, et d'aller chercher en fait des process. Il a fait un super article avec des fédérations sur son site L'Exception Catchesque, où il parle en fait des différentes manières de tourner le catch, et je pense que j'aurais regardé que trop lointainement des fédérations comme Riptide ou autres, ouais, voilà, qui m'ont vraiment hyper touché et qui sont d'autres manières d'approcher, qui sont des bonnes soupapes, je trouve, des fédérations plus mainstream.
Et puis toi, pour finir, Jérôme, donc le cofondateur de Catch à Cast. Jérôme, c'est un...
C'est Monsieur Stardom.
C'est un insatiable du catch féminin japonais, le Joshi, et de la fédération principale qui s'appelle Stardom, et qui ne parle que de ça, qui ne regarde que ça. Voilà.
Tu l'as mis un peu à l'EW, à force. Hein.
C'est vrai.
Il nous en parle.
Ça
s'alimente.
Et il t'a aussi converti à la Stardom.
Complètement, ouais. Enfin, il m'a reconverti parce que je suivais à une époque, mais là, à force d'en parler, je me dis, ouais, bon, c'est pas possible.
Mais oui, c'est cool parce que du coup, dans l'équipe, il y a une énorme diversité. Voilà, par exemple, on parlait de Guillaume, lui, il regarde essentiellement Impact Wrestling. Michael Orioto, il regarde WWE et New Japan. Mm. Moi je regarde plus le WWE, mais Mehdi regarde.
Enfin, Mathieu, il est WWE avec toujours des allers-retours, avec des trucs classiques.
Tu parlais du catch français, Laure et Raphaël, c'est principalement ça qu'ils regardent en vrai. Enfin, qu'ils regardent.
En live.
Je sais plus parler français.
Ouais. Ils assistent, ok.
Voilà, c'est très bien.
Et ça nous permet de revenir sur ta question, excuse-nous, mais c'est l'avantage, on digresse, mais on revient toujours aux questions des gens qui nous invitent. Oui, alors où est-ce qu'on en est? Bah, alors, Captain Obvious, évidemment, pandémie oblige, un peu au point zéro, sauf que, bien entendu, on a suivi et on a même dédié un numéro, puisqu'on avait eu l'occasion d'inviter Tristan Archer sur un live où il nous avait parlé en exclu du format Résistance. Alors évidemment, on a suivi et soutenu. Alors, je le dis, je permets de le préciser, parce que c'est les internets, hein. On a soutenu, c'est pas genre en mode, ouais, nous on l'a fait, pourquoi pas vous. Chacun fait son choix et a les moyens qu'il a, parce que c'est quand même un coup, hein, c'est une réalité. Mais voilà, c'est pour nous ça. On va dire, ça va soit en termes d'engagement, je pense qu'à un moment, voilà, tu localises aussi tes investissements, et si à un moment tu veux dire, j'aimerais que ça change, tu essayes, en fonction, je le répète, de tes moyens, de peut-être mettre quelques petites billes et te dire que ça permet de soutenir. Donc oui, évidemment, APC en partie, Atlas aussi, évidemment. Voilà, après...
West Catch,
bien entendu, même si je n'ai pas été suffisamment, moi, assez régulièrement, parce que c'est vrai que c'est des grosses distances et que, alors certains vont me dire, bah oui, bah faut te donner les moyens. Oui, c'est vrai, mais avec justement les émissions que je fais, je suis déjà investi sur pas mal de choses, plus comme pour tout le monde, le boulot et compagnie, donc c'est pas toujours possible. Mais oui, moi, ça me fascine, et si je les vois pas en live, je les regarde quand il y a des diffusions possibles. Surtout qu'en France, on est très, voire trop généreux, je trouve, unpopular opinion de ce côté-là, qui fait que peut-être les moyens derrière sont pas toujours au rendez-vous pour les organisateurs et leur permet pas toujours de rebondir comme ils voudraient. Mais voilà, ça c'est un autre.
Oui, débat. Ouais. Nous, pour résumer, dans l'équipe, avant la pandémie, on va dire, on allait très régulièrement voir les shows de la PC au Studio Génie à Nanterre. Ouais. À plusieurs, voilà, souvent avec Laure et Raphaël qui sont abonnés à la PC.
Ils ont leur thèse, ils ont leur nom gravé sur les chaînes.
Donc, mais à Catch-up, vous, je renvoie une question, t'as vu, yes. Je change de casquette. À Catch-up, vous faites ça aussi? Vous allez souvent voir des shows de catch ensemble? Déjà, est-ce que vous êtes sur la même ville? Peut-être pas.
Ah non, non, pas du tout. Nous, ouais. En fait, on est une équipe nationale, quoi, puisqu'on a des gens, si tu veux, à Nancy, à Lille, à Bordeaux, à Brest. On est deux de la région parisienne, on a un parisien et puis moi qui suis dans l'Essonne.
D'accord.
Donc on est vraiment d'un peu partout et je sais que tous sont allés déjà à des lives, on s'est déjà retrouvé sur des lives de la WWE à Bercy.
Ouais.
Moi je suis, alors vous parliez de catch japonais, le grand fan de la team catch-up du catch japonais, c'est Ringside. Voilà, qui est vraiment, qui a fait d'ailleurs pas mal d'émissions consacrées à la NJPW tout un temps. Et d'ailleurs, on lui demande de recommencer à l'occasion, s'il veut.
Eh oui.
On
l'avait reçu Ringside.
Ouais.
Il y avait l'amiral. Et il y avait, je ne sais plus qui était le troisième. On les avait reçus parce qu'ils étaient allés voir NXT au Cirque d'Hiver.
On avait fait une émission, effectivement, il y a...
Tout à fait, ouais.
Plus précisément, le 2 juillet 2018, les archives de Catch à Cast. Le catch parle au français.
Et c'était cool.
Ouais. Ils avaient même été à 3. Alors, Giscal, Yerem et Hank, qui est plus là dorénavant, mais ils avaient fait un WrestleMania aussi.
D'accord.
WrestleMania de la Nouvelle-Orléans, il me semble. Et voilà, donc tous, on a été, tous été voir du catch un peu partout. Largement axé WWE, mais moi par exemple, moi je vais voir, je suis pas mal le catch français et je vais voir des lives. Là, le dernier, bon, la crise sanitaire oblige, du coup c'est un peu compliqué, mais par exemple, j'avais vu le Tommy Henn en 2013, j'avais vu le Tommy Henn versus Tristan Archer à Maubeuge qui avait été un match incroyable. Ouais, et j'avais vu là le dernier, tout dernier, voilà, pour parler d'actualité, le tout dernier que j'ai fait, c'est en septembre 2020, le Quality Over Quantity, la deuxième édition qui se passe à Corbeil-Essonne, où on avait eu des gens, on avait Aigle Blanc, on avait Durançon, on avait Ravage, on avait tous ces gens-là. Et donc moi, je suis le catch français, mais moi, je suis la WWE, je suis comme Félix, moi, je suis un gros fan de la IW depuis que ça a commencé. Je regarde pas Elevation et Dark non plus, mais je regarde Dynamite et les pay-per-view, et moi, enfin, vraiment, j'ai vraiment totalement accroché aux produits AEW, et d'ailleurs j'ai commencé à lancer sur la chaîne un rendez-vous assez régulier à propos de l'AEW, et moi, accessoirement, moi je suis pas tellement le catch japonais, pour en toute honnêteté. Je regarde un peu Wrestle Kingdom et un petit peu la fin du G1 Climax en général. Mais par contre, moi, ce que je suis, c'est que je suis beaucoup la lucha libre mexicaine, quoi. Je suis beaucoup la AAA et la AAA, un peu la CMLL. J'étais un aficionados absolu de la lucha underground. Et je pense que je vais être un aficionado absolu de la Azteca Underground que la MLW est en train de mettre en place, qui devrait arriver, je pense, d'ici septembre. Donc voilà, donc oui, on consomme du live quand même, mais c'est vrai que finalement, comme vous, en plus, en bossant sur un podcast, du coup, on s'en fout des heures et des heures et des heures et des heures de catch. Alors justement, ça va rejoindre ma question, parce que vous avez un peu répondu à plusieurs questions à la fois en même temps dans votre dernière intervention. Comment vous vous organisez? Comment ça se passe? C'est-à-dire, il faut c'est chronophage, le catch. Et il faut se taper des heures de show. En général, c'est une heure et demie, voire deux heures. Quand c'est des pay-per-view, ça peut monter jusqu'à 3-4 heures. Alors, comment ça se passe à Catch à Cast? Comment vous êtes organisé là-dessus? Est-ce que vous partagez le boulot sur les reviews que vous faites, enfin sur les shows que vous regardez? Ou est-ce que c'est vraiment spécifique? Tu disais que tu avais un de tes collègues là, qui regardait que la Stardome, par exemple. Donc, comment ça se passe?
Déjà, nous, on fait des reviews que... c'est un peu l'inverse de Catch Up. C'est-à-dire que de temps en temps, vous faites, par exemple, j'ai vu votre nouveau format avec Catch Comptoir, là, avec The
ouais,
Fiend.
Comptoir du catch, ouais.
Vous avez fait vraiment un portrait sur The Fiend. Mais vous, c'est quoi 90% de la review? Nous, c'est plutôt l'inverse. Mm. On fait ouais. des reviews voilà, de WrestleMania, du G1 Climax, d'un pay-per-view AEW, parce qu'on est très hypé et on veut partager notre hype. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on en fait moins régulièrement. Du coup, comment on s'organise? Déjà, on essaie de savoir qui est tenté pour voir le show de base, vu qu'on ne regarde pas tous les mêmes choses. Et ensuite, chacun regarde comme il peut. Voilà, on a du mal à avec nos vies et tous les aléas du quotidien. On a du mal souvent à faire une review 24 heures après, 48 heures après. Mm. Donc du coup, on essaie de s'organiser le week-end suivant. Vraiment, on laisse le temps à tout le monde d'avoir le temps de regarder le show en une fois ou en plusieurs parties. Et après. Review classique. Moi, en général, je suis un peu l'astreint au fil conducteur. J'essaie de faire la structure. Mmh. Et puis Mehdi, il essaye en animant de timer un peu les interventions pour pas faire trop long, parce qu'il y en a, on les connaît. vous reconnaissez à travers vos oreilles que vous êtes trop long. Jérôme. Et voilà, en fait, c'est comme ça qu'on s'organise. Je sais pas si j'ai loupé un truc, mais
non. Pour notre façon de bosser, ouais. Pour la consommation catch. Alors. Moi, je sais, j'espère que je ne trahirai pas trop un secret, Félix, mais moi, je sais que je dors pas beaucoup, donc ça m'aide pas mal en termes de consommation de catch, ça facilite, on va dire. Et attention, pour tous les habitués, les fans de catch-up et des fans de catch en règle générale, je sais que ce que je vais dire peut heurter les oreilles des plus sensibles, en fonction du show et en fonction du match, je peux être en mode regarder et faire des petits jumps de 10-15 secondes. Voilà, j'ai Félix qui fait non, de la tête comme ça. mais voilà, ça va dépendre vraiment. Mais moi, je suis navré quand je regarde la 15e itération de Nia Jax Shayna avec triple quadro-loots piqué de Reginald. Je suis navré, je fast forward. Voilà. Ah, mais donc, il faut que ça soit vraiment digne d'intérêt avec un vrai build et que ça me parle. Donc, quand je vais regarder de la EW, de la NJPW en général et de la NXT en général, je regarde en intégralité. Mais sur certains arcs de WWE, voilà, je permets de faire ça.
Tu fast forward.
Ouais, je fast forward pour les trucs qui me font trop mal aux yeux, qui sont insupportables.
Ouais, de toute façon, au vu en plus des heures et des heures et des heures de catch que propose la ouais. WWE chaque semaine, si en plus vous êtes fan de fédération indie, japonaise, etc., ouais. C'est vrai que réussir à caler toutes ces heures de visionnage, c'est compliqué. Je vois déjà nous qui tous consommons de la WWE, moi je me rajoute à ça souvent de l'AEW et aussi du catch mexicain. Donc c'est vrai
qu'on a parlé des pay-per-view aussi qui
et on a parlé des pay-per-view, ouais.
Mais nous, on a respect robustesse pour catch-up, hein, parce que c'est un gros monstre. On le voit. Moi, je regarde pas mal de OSW review, ce genre de choses, mais je regarde aussi presque quotidiennement des trucs comme le Wrestling Observer live ou post-wrestling aussi, que j'aime beaucoup, qui parle d'actu et qui fait des reviews de l'AEW, de la WWE. Et c'est ouf comment c'est un travail monstrueux de faire ça de manière hebdomadaire. Et quand on regarde des Brian Alvarez, par exemple, quand il parle, on a l'impression qu'il a fait le Vietnam parfois. Hein. Donc c'est vraiment... Moi, j'ai énormément de respect. Moi, en tant que fan de catch, j'ai un petit côté culpabilité de parler de la WWE parce que je la suis et j'en ai été fan et j'ai été spectateur pendant longtemps. Mais en même temps, je la regarde pas. Donc parfois, dans des débats, j'essaye vraiment de la jouer le plus objectif possible.
Tu te caches derrière ta moustache.
Voilà. De vraiment laisser parler ceux qui la regardent. Mais franchement, c'est... Et pourtant, il y a des bons trucs aussi. Hein. Franchement, il y a des trucs...
Il y a des moments, faut pas déconner.
Les Roman Reigns et tout ça, moi, des fois, ça me donne envie de voir.
Il y a des belles choses quand même. Ça reste, pour moi, ça reste la Big League. Et qui nous propose quand même les pay-per-view les plus énormes chaque année. Quand tu vois un WrestleMania, quand tu vois toute la prod qu'il y a autour d'un WrestleMania ou autour même de, je sais pas moi, d'un Money in the Bank ou d'un Royal Rumble, tu sens bien que t'es pas que là t'es pas, tu vois, dans la dans la fêlée du quartier à côté de chez toi, quoi. Là ça rigole pas la WWE à ce niveau-là. Mais quelque part, quand je regarde un Wrestle Kingdom ou des choses comme ça, ou là le dernier Double or Nothing de la IW, je retrouve des niveaux de production bien élevés, quoi. Ils élèvent le niveau, nos amis de l'IW, non ?
Clairement. Moi, j'ai eu beaucoup d'amour pour la AEW tout de suite, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, dès qu'il y a un truc alternatif, dès qu'il y a un truc qui sort un peu du lot d'un point de vue présentation ou narratif dans le catch, moi, je me lance tout de suite. C'est pour ça que tu as cité Lucha Underground. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais parce que malheureusement,
elle n'existe plus
de ses cendres que très récemment. Mais moi, j'étais un converti de chez converti à Lucha Underground. Et la EW, bon voilà, malgré le fait que je l'aime beaucoup et que je la suis hebdomadairement, je sais pas si c'est français, mais je m'en fous. Il y a quand même, voilà, des griefs. Il y a quand même beaucoup. Elle nous promettait un truc très différent, très sportif, machin. Mais c'est quand même très proche de la WWE dans sa présentation, dans sa façon de faire, dans sa production, on va dire. Et ça, c'est vrai que ça me plaît moins, quoi. Moi, j'aimerais vraiment trouver un truc qui sort vraiment du haut. Même la New Japan, elle s'américanise depuis quelques temps. Et pas forcément pour le meilleur, quoi.
Ouais.
Donc moi, ça commence à me saouler sévère.
Mais dis ton avis là-dessus.
Par rapport, parce que comme on parle de beaucoup de choses, là précisément par rapport à quoi, par rapport
à ce qu'on disait avec Félix là sur l'IW, tout ça. Tu suis déjà toi là, Oli Wrestling?
Oui, non, c'est hebdomadairement aussi, vu que ça existe en français après vérification. Mais je suis, et je suis d'accord avec la dernière affirmation de, on va dire, de la tendance, américanisation, c'est aller un peu, c'est pour aller vite. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Avec ça sur la façon de gérer, mais ils ont quand même gardé, heureusement, c'est ce qui fait qu'on continue de les aimer, le côté très au long cours. C'est un truc que j'adore dans la NJPW, ouais. Il peut y avoir des trucs en gestation avec des petits... C'est pour ça que moi, je voue un culte aux interviews post-match que je suis. Alors, ça rajoute à la couche chronophage, mais sur les gros matchs, les quasi main event et quasi main event, je regarde les interviews, surtout celle de Jay White, je t'aime Jay White, avec Kenny Omega, que j'écoute religieusement, parce qu'il y a plein de petits éléments, de petits signes, qu'il y a des jeux de pistes assez fabuleux et une vraie maîtrise encore de l'écriture. Mais oui, pour la AEW, oui, et moi aussi j'attends avec impatience le retour de Lucha Underground, avec Azteca Underground, je m'en veux de ne pas l'avoir cité un peu plus tôt.
Ouais. Et sur le côté production, c'est vrai que du coup, moi, j'ai presque une appétence. Alors, il ne faut pas que ce soit vraiment du backyard, etc. Mais j'ai une vraie appétence depuis 2011 et depuis ma découverte de la Ring of Honor et tout ça, de l'ouverture de mes horizons catchesques. Depuis ce temps-là, moi, j'ai une vraie appétence pour les trucs qui sortent du lot, même en termes de production, même si ce n'est pas hyper carré, même si ce n'est pas hyper lisible. Si ça sort un peu du lot, si c'est juste un petit peu différent, que ce soit par défaut ou par volonté, moi, ça m'attire déjà de base. Donc, je préfère un truc qui ressemble à rien à la WWE qu'un truc qui soit vraiment copié-collé à la WWE, comme avait fait, par exemple, malheureusement, la TNA quand il y a eu Hulk Hogan et compagnie, quoi.
Je croyais que t'allais dire qu'il ressemble à rien. Tout court.
Qui ressemble à rien, non plus, je vais pas regarder ça.
Tu parles de Power. Oh,
ouais, oh.
Ah, je comprends ça, en fait, parce que c'est un truc que j'aime bien aussi. C'est-à-dire que moi, je regarde la WWE quasiment religieusement. Je ne loupe rien de Raw, SmackDown et les pay-per-view. Mais j'aime bien, justement, quand je vais sur une autre fédé, j'aime bien trouver un produit complètement différent, quelque chose qui me sorte de la WWE. J'aime pas le copier-coller. Donc, je te rejoins un peu sur l'AEW, sur quelques moments où parfois il pourrait un peu se laisser aller à se copier-coller. Mmh. Mais globalement, après, je pense que le catch que je regarde, de toute façon, est tellement différent que de toute façon, d'office, je sors de la WWE assez facilement. C'est pas, ça me pose pas de problème particulier, quoi. Alors du coup, vous avez quand même commencé tous les deux à biberonner avec la WWE comme quand même quasiment la majeure partie des fans de catch. Et alors, pour vous deux, là, c'est quoi les plus grands catcheurs ou catcheuses all time dans votre Hall of Fame personnel?
Voilà, vraie question. Donc on peut partir des débuts de quand on a regardé, de l'histoire de la WWE.
Ah, tu peux regarder comme tu veux. Alors, on parle beaucoup trop ici, on est à You Talk Too Much, alors tu peux te lâcher, mon Mehdi.
Je vais faire mon salaud de patate chaude, je vais laisser Félix comme ça.
Moi, tout de suite, c'est l'Undertaker. Malgré le Mark Calloway qu'on voit de plus en plus, qui aurait dû rester caché dans l'ombre de l'Undertaker.
Je crois, les travailleurs associés avec la NRA, on se
trouve. Un petit peu. Non, l'Undertaker, voilà, pour moi, c'est celui qui m'a fait tomber in love dans le catch.
Notre chroniqueur Raphaël hier, exactement la même chose que toi.
Bah ouais, parce que je l'avais raconté dans un catch à cast. Moi, j'ai découvert le catch par Undertaker versus Mankind de Hell in a Cell. Donc vraiment le haut du panier de la violence.
Merci tonton.
Et donc vraiment c'est la figure de l'Undertaker. Il m'a tellement impressionné, tellement marqué que je devais en savoir plus et comme par hasard, évidemment, il y avait Catch Attack à la télé et l'Undertaker était omniprésent à SmackDown, etc. Donc vraiment, j'étais abonné à SmackDown beaucoup plus qu'à Raw d'ailleurs. Toutes ces feuds avec Batista, avec Edge et tout ça, voilà, c'était
ma boule, c'est la gâche.
Voilà. Après, à qui mettre d'autres dans le panthéon? Oh là là!
Il y en a un, je suis quand même étonné. Là, ça fait 2 minutes, tu n'as toujours pas parlé.
C'est qui? Oh. Bah vas-y!
Tu as parlé de ta casquette tout à l'heure, wesh!
Ah bah oui, CM Punk, bien sûr!
Bah voilà, c'est tellement naturel qu'il y avait.
S'il n'y avait pas CM Punk, je sais pas.
Faudrait l'inventer.
Et c'est aussi pour ça qu'après.
Décidément, t'es plein de points communs. C'est marrant, vous êtes de la même génération en fait, parce que nous, on est une team qui va de 29 à 50 ans avec moi. Et donc du coup Raphaël est assez proche de toi, Félix, et Raphaël c'est pareil, l'Undertaker et le CM Punk, quoi, voilà, quoi. C'est des mecs qui reviennent tout le temps sur le tapis.
Bah ouais, mais là c'est vraiment dans le côté perso, quoi. Là c'est de l'affect, quoi. Quand il est parti, au bout d'un moment moi aussi je suis parti, quoi. Il a pris un bout de mon cœur avec,
oh, c'est bon.
Même si bon le mec est pas, il a un petit côté connard un peu aussi. On va dire qu'il a un sale caractère. Mais voilà, CM Punk, c'est...
Tu vas avoir des problèmes.
C'est tout un truc. Mais c'est vrai qu'avec l'objectivité, moi, j'aime beaucoup des gars comme... je sais pas, comme Eddie Guerrero, par exemple. Randy Savage aussi. Voilà, et puis, dans l'indie aussi, j'ai beaucoup d'amour pour des catcheurs. On se faisait la réflexion avec un autre membre de Catch a Cast. Qu'on aimait tous les deux des catcheurs qui étaient des connards dans la vraie vie, qui étaient des anti-masques, etc. Des gars comme Austin Aries, comme Loki.
Le monsieur, il a dit WWE. Hein.
Ah, c'était que WWE, pardon.
Ouais, mais vous pouvez digresser, hein, c'est pas un problème.
J'aime beaucoup Batista. Mais il y en a tellement aussi. Ouais. Vas-y, un peu à ton tour.
Mehdi.
Undertaker, je crois que pareil, hein, incontournable, c'est impossible vu l'empreinte qu'il a laissée. Le seul truc qui permet de vérifier, si tu demandes à n'importe qui, quelle que soit la génération, il va te dire « Ah ouais, le mec là avec le grand manteau noir et le chapeau ben, », c'est le seul qui repop systématiquement, évidemment. Bizarrement, alors que c'est... on va dire ça peut être un blaireau autant dans le rôle qu'il avait qu'un peu à la ville aussi. Triple H, pour plein de petits trucs que des fois je ne m'explique pas forcément, mais il y a cette fabuleuse vidéo dont j'ai oublié le nom qui t'explique pourquoi Triple H s'est acharné.
Wrestling isn't wrestling.
Voilà.
Du fils de John Landis, là, Max Landis.
Voilà, de cet acharnement en fait de Triple H à vouloir rester à la fois dans le haut du panier, plus sa proximité de plus en plus poussée au point d'épouser la fille de l'héritière, voilà, de la fille de McMahon. Et c'est moi, ça me fascine en fait. C'est vraiment là où je reprends toujours la fameuse expression de Chris Jericho, si Shakespeare était encore en vie, il écrirait des shows de catch. C'est un peu ça. On a besoin aussi d'antagonistes comme ça, même s'ils sont détestables, pour donner un petit peu le sel, sans mauvais jeu de mots, du catch. Après, il y a évidemment le mec qui m'a complètement remis le pied à l'étrier beaucoup plus tardivement. Alors j'ai aussi c'est évidemment comment s'appelle-t-il, Daniel Bryan, c'est un truc, c'est j'en tremble encore parce que c'est quand j'ai commencé à vraiment totalement me remettre comme un full time job, comme dirait Simon Jérémy, au catch, je m'y suis mis, j'ai suivi et il a annoncé sa retraite entre guillemets avant de revenir j'ai vraiment chialé en fait à l'annonce. C'est vraiment un mec qui m'a... Et de la même manière, mais là, je digresse, ce sera la seule, j'en ai parlé tout à l'heure, Kenny Omega, pour moi, c'est bon, sans mauvais jeu de mots, c'est l'alpha et l'oméga du catch. C'est sa relation, même si j'ai pas le même attachement que certains pour Kota Ibushi, mais le fameux Golden Lover, tout le storytelling, le mec en tant que tel, enfin... Son athlétisme, tout quoi, le fait qu'il soit un gros nerd de jeux vidéo, mais vraiment quoi. Voilà, après, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre encore à la
WWE? On peut peut-être citer quelqu'un de plus récent. Moi, et en plus, une femme, moi j'ai envie de dire.
C'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas cité de femme.
Moi je suis dans ta tête, Chris. Moi, j'ai envie de dire Asuka.
Ouais,
c'était prévu, ouais. Non, Asuka, et après, si on va du côté féminin, il y a. Je vois pas
ça commence d'autres
cas. Non, je suis en train de réfléchir parce que le problème, c'est que t'as parlé d'Asuka de base, donc c'est un petit peu compliqué en fait. Si on reste dans l'actualité, et là, l'actualité lui donne raison, j'ai pas vu le dernier show de Dynamite en date qui doit avoir 24-48 heures. Britt Baker est impressionnante, quoi. Vraiment. Après, je vais citer des noms comme Britt Baker, je vais citer des noms comme Thunder Rosa, que j'ai découvert un peu trop sur le tard à mon goût, mais je m'en rattrape. Je vais citer.
Serena Deeb.
Non, ça, je te la laisse. Même si j'aime bien, mais il manque une étincelle.
Comment tu ne cites pas Rhea Ripley?
Oui. Non, mais Rhea Ripley aussi, évidemment. Et ma dernière en date vraiment chouchoute qui est en train de complètement prendre tout l'écran de mon champ de vision, c'est Mei Kasuga. Voilà, grosse découverte très récente. Elle est très jeune et moi je suis émerveillé face à cette nana et surtout je suis émerveillé d'un truc, parce qu'en ce moment elle est full time face, notamment du fait qu'elle se fasse un nom aux États-Unis progressivement par les tournois qui a eu lieu récemment à la EW. Si tu la suis du côté de la Choco Pro et tout ça, tu vois qu'il y a un truc où en fait elle est turbo vénère. Et qu'à des moments, elle a un potentiel de grosse heal. C'est pour ça que tout le monde est sur Makito, sur le côté rockstar, punk rockstar, machin. Mais en réalité, Mei Kasuga, je pense que le jour où ça pourra... Et puis Rio aussi. Rio, quand même, avec le recul, assez impressionnant.
Ouais, voilà. Qui a un peu disparu, Rio. Un peu disparu des radars, là.
Ouais. Mais ouais, je me rends compte que ça bouge beaucoup, et puis le fait de m'y intéresser par le biais du catch à casse, de toujours faire de la recherche, je me prends d'amour pour un catcheur, une catcheuse, comme la plupart d'entre nous, et je vais me faire une soirée entière avec des matchs, et voilà, vu qu'on a digressé de fédération en fédération, et il va me dire, c'est pas possible, si t'arrives, si tu le cites pas, Orange Cassidy, évidemment, et Pac, voilà, je m'arrête là.
Et Toruyano.
Ouais,
ça y est, on va tout
non, mais Toruyano, il cliffe trop les gens. Je veux pas le citer. C'est tellement un kink perso, Toruyano. Je comprends que ça cliffe totalement ses matchs avec ses rouleaux de scotch. Et puis Toruyano a fait chier Moxley. Et pour ça, je l'aime à vie.
Et puis, Chris, moi, je vais finir là-dessus pour cette question. Mais on a un autre point commun. C'est que moi, j'adore les dinosaures. Et j'adore le Chasaurus.
Ah, ça, c'est bien.
Voilà.
Tu l'as vu, tu sais qu'il a. Enfin. On a commencé à le voir à la Lucha Underground, exactement.
Ben oui, bien sûr, moi je loupe rien, moi.
C'était Vibora, mais il était dans un clan assez terrible. Et c'était C'est là où je l'ai découvert. Mais
dans le clan, justement, il y avait, j'ai peur de dire une énorme connerie, celle avec le masque bleu, c'était pas Thunder Rosa ?
Si,
c'est ça.
Si, c'était Thunder Rosa, ouais. C'était sous une autre appellation, mais voilà. C'était bien
la,
elle.
La boucle est bouclée, on est d'accord.
Exactement, ouais. Alors, du coup, pour un peu terminer là-dessus, finalement, c'est quoi dans l'ignoble sport, là ? Qu'est-ce qui fait qui vous attache le plus, finalement ? C'est les storylines, c'est les personnages, c'est les gimmicks. Pour vous, c'est le in-ring qui est important. C'est souvent selon les fans, en fait. Alors évidemment, c'est un mix d'un peu tout. Mais on peut avoir quelques préférences, si tu veux. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas t'accrocher ou que vous allez vous accrocher sur tel ou tel show ? Est-ce que c'est parce que, voilà, pour vous, c'est la suite, c'est tout le storytelling qui est en marche ? Ou est-ce que c'est vraiment, vous êtes vraiment plutôt lié à tout ce qui est gimmick et personnage ? C'est quoi pour vous l'important là-dedans ?
Plus le temps passe, plus j'aurais tendance à dire, moi je suis en recherche de narration subtile. C'est-à-dire que quand il y a un show qui propose effectivement une narration, typiquement, c'est pour ça que je me tourne beaucoup plus, en termes d'affection, vers la NJPW, même si la EW propose des trucs progressivement très sympas, et que je n'abandonne pas le navire WWE, et d'ailleurs je suis redevable à Michael en fait, et c'est pour ça que... J'adore le Kachakast au-delà de l'avoir créé et de l'animer parce que justement les copains, comme on l'a dit tout au long de l'émission, on se dit oui, mais moi je me souviens d'une remarque de Michael qui m'avait dit ouais, mais faut pas pourquoi tu méprises aussi bassement comme ça la WWE, en réalité il y a des trucs et puis en plus eux c'est des weekly et machin. Et c'est vrai que je me suis dit que j'étais un peu con, j'étais un peu en mode fan ingrat et machin, et puis en me remettant à apprécier, oui, il y a des fois des trucs achetés, mais bon, ils ont leur show hebdomadaire, triple show hebdomadaire, quadruple si on compte la NXT UK, et voilà, c'est en termes de synergie, c'est quand même assez impressionnant, qu'on le veuille ou non, et puis voilà, il y a des espèces d'étoiles filantes merveilleuses comme une Bianca Belair, comme des choses comme ça qui sont fabuleuses. Et pour finir sur la question, ouais, la narration subtile, le truc qui prend bien son temps, qui s'installe, qui nous prend pas pour des cons en fait. Et je dis qui nous prend pas pour des cons au sens où quand j'étais gosse, j'étais très content d'avoir un truc qui claque et tout. Mais je pense que évidemment, avec la maturité, je vais préférer quelque chose qui va vraiment s'installer dans la durée, qui va pas simplement me choquer en mode gros plot twist révélation, mais qui va être assez pernicieux, s'installer comme ça. Et c'est pour ça que les analyses de catch, que ce soit par podcast, par vidéo et tout, m'intéressent vachement. Il y a une chaîne que Félix m'a fait découvrir il y a peu, avec une jeune vidéaste sur YouTube. J'ai oublié son nom, mais je vais le retrouver pendant que Félix...
Karen Watches Wrestling.
Voilà, Karen Watches Wrestling, et qui a fait une analyse de Evil, de la NJPW, et qui est fabuleuse, parce qu'en vrai, moi, j'ai vachement chié à l'époque d'un... Bon, il y a prescription, on peut le dire maintenant, du heel turn, enfin en tout cas de la trahison de Los Ingobernables de Japón à la NJPW. Mais quand tu regardes, en fait, tout était en filigrane. Il y avait plein de signes qui étaient posés et c'est pas un hasard qu'ils aient effectivement dilué tout ça progressivement. Voilà, grosso modo, narration subtile, c'est ce que je vais chercher, même si je suis très content d'avoir des fois du fantasque et des trucs. J'étais le premier à rigoler quand il y avait l'espèce d'épreuve de parcours entre Bianca Belair et Bayley, où elle devait, au lieu de porter un petit poids sur le dos, porter Otis, et que finalement elle a gagné son parcours. Enfin voilà, ça varie, mais majoritairement je préfère une narration un petit peu qui s'installe dans le temps.
Quant Philippe. À toi, je dirais, il y a aussi ça. Moi, je suis un gros fan de narration, de scénario, de cinéma. Enfin, j'ai aussi fait une formation d'un an en écriture scénaristique, donc j'y suis peut-être plus sensible par rapport à ça. Mais je trouve que j'ai aussi beaucoup d'appétence pour, encore une fois, tout ce qui sort un peu du lot, par exemple en termes de stipulation, ce genre de choses.
Ouais.
Par exemple, quand la EW a voulu faire son Exploding Barbed Wire Deathmatch, moi j'étais à fond. Ouais, il va y avoir des gros moyens. Voilà. C'est pour ça aussi que j'aime, par exemple, Bloodsport, parce que ça sort du lot, c'est très différent. Et puis j'aime beaucoup aussi, de plus en plus, alors qu'avant, j'étais plus dans l'action, in-ring, etc., ou dans les personnages, ou les gimmicks. J'aime de plus en plus les promos, en fait. Je trouve que l'AEW donne vraiment la part belle à ce côté-là. Mais en fait...
NXT aussi.
Mais en fait, c'est... avant même l'AEW, c'est NWA Power.
Power, ouais.
C'est un peu... c'est plus trop ce que c'était, comme on dit. Mais au début, enfin, des gars comme Eddie Kingston ou même Nick Aldis, leur champion NWA, ils te lançaient des trucs que moi j'avais plus entendu depuis CM Punk ou ce genre de gars à la WWE. Et vraiment, ou Kevin Steen à la Ring of Honor. Aussi. C'est vrai que moi j'oublie beaucoup, mais moi j'ai été un grand fan de Kevin Steen aussi.
C'est contractuel avec Michael, on est obligé de parler de Kevin.
Et donc voilà, ouais, c'est la narration d'abord, et puis après tout ce qui sort du lot et les promos aussi, ouais.
Ah, Kevin Steen, tu sais que je chasse sur Twitter notre ami Kevin Owens parce que j'adorerais le recevoir à catch-up. Je l'ai découvert à la Ring of Honor également, et j'ai suivi pas mal de choses sur tout ce qui se passait avec Generico.
Ça fait partie de mon cœur de fan de catch. Ça aussi.
Ouais, pour moi, c'est une des plus grandes rivalités de l'histoire, en fait, du 21e siècle du catch, quoi.
Mais oui, ouais. Complètement d'accord avec ça.
Pour moi, il y avait, moi qui suis le catch depuis les années 80, hein, depuis le début des années 80, avec l'arrivée de la WWF sur les antennes de Canal+ en 84 à peu près. Et donc moi, ça me fait Kevin. Quand je me suis retrouvé avec la rivalité Kevin Steen El Generico, je suis retourné un peu en arrière sur des vieilles feux de, en particulier avec le Macho Man Randy Savage versus Ricky Steamboat ou versus Ric Flair. Voilà, c'était. Je trouve qu'il y avait ce côté-là. Je retrouve en fait en Kevin Owens et en Sami Zayn ce côté-là. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et tout ce qui concerne la bagarre, on va parler un peu de bagarre, là, parce que j'entends Félix qui parle de Bloodsport et tout ça, mais si on met de côté un peu justement les promos, la narration, les storylines, etc., finalement, quand on se retrouve dans le brut de brut, quand on se retrouve entre les cordes et que ça bagarre dans tous les sens, c'est quoi qui va vous exciter, là, qui va vous faire « Oh, il faut absolument que je fasse un podcast ce soir !»
Bah alors, pour tout te dire, déjà, alors je sais pas si ça va donner des implications aux auditeurs par rapport à l'excitation, mais vous imaginez ce que vous voulez, hein, mais au Kachakas, on s'est déjà bagarré, tu vois.
Ouais.
On a été sur
un ring. On s'est comme ça.
Moi, je lui ai mis des atémis à midi, et Volodia, elle lui avait mis un dropkick dans le torse, quoi.
Un shotgun, d'ailleurs.
Un shotgun dropkick.
Donc, c'est oui, il y a des vidéos sur le Kachakast où vous pouvez voir ça.
C'est des dossiers publics.
On a fait un petit arc, effectivement, scénaristique pour on va dire, introduire pour la saison qui venait Félix et Volodia.
Donc voilà.
Il faudrait que vous me donniez les vidéos et je vais aller voir ça.
Donc déjà, la bagarre. C'est inhérent au Kachakast. Non, moi, j'aime pas forcément...
Ça croque.
J'aime quand ça croque. J'aime pas forcément ce qui est beau. J'aime quand ça fait mal.
Quand c'est stiff.
Ouais, quand c'est stiff, quand ça saigne, le pauvre, il a été un peu trop, il a fait un peu trop de zèle, il a eu excès de zèle. Katsuyori Shibata à la New Japan, ouais. Qui faisait des vrais coups de tête, etc. Ça lui a coûté sa carrière, entre guillemets. Mais ça c'est, moi ça m'hérisse les poils, quoi. Moi je suis. J'en veux plus, quoi. Et c'est pour ça que j'aime aussi le hardcore, je pense. D'un certain niveau, j'aime pas du tout, par exemple, le deathmatch wrestling à la japonaise, où vraiment tu commences le match, où tu j'en ai parlé dans l'émission sur le hardcore qu'on a fait, où tu t'éclates des néons sur la gueule, etc., avant même de toucher ton adversaire. Ça m'intéresse pas. Mais il y a des matchs hardcore de la ECW à l'ancienne, etc., vraiment, je pourrais les regarder 10 000 fois, ça me ferait le même effet, quoi.
Le Dexter. de mon côté, plus le temps passe, c'est le truc de... Bon, heureusement, c'est pas vieux con ce que je dis, mais et puis tant que je vire pas de droite, mais plus le temps passe, plus j'ai beaucoup de fascination pour le... Bon, je pense que c'est... Aussi, quand on est jeune, on va être plus impressionné par des qualités athlétiques ou un corps plus bodybuildé, encore que ça se trouve, c'est une vérité qui n'est pas du tout généralisable, mais de plus en plus touché par le catch technique. Notamment, j'ai eu un très gros déclic, un peu tardif, mais très gros déclic grâce à Zack Sabre Jr., qui m'a vraiment, vraiment fait aimer le catch technique bout en bout. Et j'ai récemment vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, même Félix, je n'en ai pas parlé quand il est arrivé. C'est un match récent à NXT UK entre Bate et A-Kid, qu'il a d'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, entraîné. Et ce match est incroyable. C'est okay. Vraiment, ouais, ça fait genre match miroir, mais hyper fino. Bref, j'en dis pas plus. Et donc voilà, déjà, match technique. Après, j'ai toujours un petit faible pour les OMG moments, voilà, du gros high fly. C'est pour ça que je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais du côté indie, un amour à vie pour la PWG, avec des chocs là aussi visuels. Ce fameux triple threat entre Keith Lee, Ricochet et Jeff Cobb, Big Guys Can Fly, qui est fabuleux, quoi, où je me suis dit putain, il y a des mastodontes qui et c'est vraiment les moments où petit à petit je me disais ouais, enfin il n'y a pas que la WWE dans la vie évidemment, et voilà, donc le high fly peut me toucher, j'ai le monkey spot, bon, Osef, il y a Félix qui est vraiment faut que je le laisse parler,
si je le dis pas maintenant je vais me trahir moi-même. Cette question ça, et ce que tu viens de dire Mehdi, ça me fait rebondir sur ta question Chris du Hall of Fame et tout ça. Rob Van Damme,
ouais.
Rob Van Damme, c'est lui qui m'a vraiment... c'est l'Undertaker qui m'a poussé dans le bain du catch, mais c'est Rob Van Damme qui m'a fait apprendre à nager dans le catch. On va dire.
C'est beau, voilà,
c'est mon catcheur parfait, quoi. Il est hardcore, okay. Il est stiff, il est athlétique, il fait des trucs que t'as jamais vus, et il est hyper charismatique.
Après, malgré tout, on peut constater quand même que sur le 21e siècle, voilà, la différence entre le catch, c'est que les powerhouse dorénavant sont capables de high flying, capables de gros moves techniques. C'est vraiment une des constatations que moi j'ai fait en fait au fur et à mesure des décennies. On est passé vraiment d'un catch des années 80-90 qui était quasiment un catch traditionnel. À la papa, ou qui pouvait être vraiment super violent, vraiment avec beaucoup de brawlers, beaucoup de. Voilà, dans les rosters, il y avait beaucoup de mecs comme ça. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu un espèce de passage, un espèce de tournant que je daterais peut-être justement de la génération Catch Attack, etc. Où la WWE et d'autres fédés ont commencé à trouver des mecs énormes, mais qui étaient capables d'autre chose que de coller des athémies et de coller des forearms, quoi. Et ça a changé aussi, je pense, pas mal la vision du catch pour pas mal de fans. Et à vous écouter, en fait, j'ai l'impression que c'est que vous êtes totalement dans ce mood-là, quoi.
Mais quand tu cherches aussi 80-90, bon, c'est beaucoup plus de la rareté qu'aujourd'hui, t'as totalement raison sur ce point-là, mais il y a des gars, et moi j'adore ce genre de catcheurs, des gars comme Bam Bam Bigelow ou Vader, oui. Qui sont des Brock Lesnar en puissance, mais qui sont capables, et comme Brock Lesnar d'ailleurs, qui sont capables, parce qu'il peut sortir des Shooting Star Press quand il ne le loupe pas en main event, mais ils étaient capables aussi de te sortir des moonsaults, des trucs de fou, quoi. Mmh. Et c'est ça qui faisait la différence. Malheureusement, ce n'était pas ce que privilégiait la fédé au sommet du catch qui était la WWE. Elle a mis effectivement du temps à s'y mettre, etc., à accepter ce genre de style, mais...
Et même aujourd'hui, elle fait atterrir ces big guys, hein, parce qu'on n'a toujours pas de retour de Keith Lee, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est criminel, on est d'accord. Mais oui, pour terminer, je parlais donc des OMG moments, donc des... oh mon Dieu, ouais. J'ai une image qui est restée encore aujourd'hui gravée, même si ça me fait un peu du mal parce que ça reste un catcheur technique, mais il est très mal exploité. D'ailleurs, on le voit, il est cantonné à du Elevation et du Dark. C'est Angelico. Et Angelico et son fameux saut du sommet à deux reprises, hein, lors de Lucha Underground. J'ai mis des jours à m'en remettre, quoi. C'était vraiment un truc, je me dis, mais en fait, c'est le moment où je me suis dit, le catch n'a pas de limite. Allez trouver ça si vous avez l'occasion. Et puis même au niveau de l'acting, c'était vachement bien amené avec Ivalice qui était à l'époque, je sais pas si c'était vraiment blessé ou pas, mais qui était en béquille et qui était aux abords du ring et qui était en mode, mais genre mec, mais je pense qu'il y avait une partie de son visage qui reflétait un truc, mais oh, t'es quand même complètement barré, même si c'était scripté. C'est vraiment des moments comme ça, même là j'en parle, j'ai encore la chair de poule. Donc grosso modo, ouais, de plus en plus d'attrait pour le catch technique. Je continue d'apprécier du match à l'ancienne, évidemment. Et puis la NJPW, évidemment, a élevé le rang du côté high flyer, même si en même temps, comme je disais, avec des Zack Sabre Jr., elle m'a fait aussi aimer voilà, du catch beaucoup plus au sol. Et dernier truc, c'est pas vraiment un style de catch, mais moi j'aime bien, c'est dans un registre différent de ce qu'a dit Félix, mais ça se rapproche, j'aime bien l'excentricité en fait dans le catch. C'est pour ça que je suis très 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 fan de Hiromu, qui malheureusement n'a de cesse de se blesser justement de par cette excentricité, hein. Et c'est un truc, ouais, qui me fascine quand il y a une synergie entre l'intensité et l'excentricité. C'est un truc que j'aime beaucoup.
Ah, tu parlais d'Angelico à la Lucha Underground. Ouais. Tu sais que sur le deuxième spot, en fait, quand il saute des plateformes là, qu'il y avait dans le temple,
ouais.
Le temple, pour les auditeurs, c'était la salle où se déroulaient les épisodes de la Lucha Underground. Tu sais que sur le deuxième, en fait, il se casse le bras.
Ouais.
Et il continue. Ça, c'est incroyable. Mais ça, dans le catch, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent.
Ouais,
les mecs se blessent pendant des spots et continuent, quoi. Continuent. Ils vont jusqu'au bout. Ça me fait penser à Triple H. Je suis pas à Triple H.
Ouais.
Qui s'était déchiré le pectoral en plein match. C'était il y a pas très très longtemps, ça. C'était pendant les années 2010 là, et où il se déchire le pectoral et le mec continue, quoi, va jusqu'au bout de l'écriture du combat et termine le combat malgré la blessure, quoi. Ça, c'est quand même un truc incroyable, parce que c'est souvent un argument sur le catch à dire c'est du faux, c'est n'importe quoi. Ils se font pas mal en fait, etc. Mais c'est absolument faux. On voit juste la tronche à Sheamus au dernier row là.
Et c'est clair qu'il pisse le sang. Ouais. Là, c'est pas du blading. Hein. Il s'est pris un vrai kick de cario. Quoi.
Et ouais. Et il se pète le nez, quoi, tout simplement, ouais. Quoi. Et donc ça, c'est des accidents qui arrivent régulièrement dans le catch parce que ça reste un sport ultra physique. Et qu'il faut monter une ou deux fois sur un ring pour comprendre. Alors apparemment, vous avez vécu l'expérience. J'ai eu l'occasion de la vivre aussi. J'ai jamais été catcheur, mais j'ai eu l'occasion de monter sur un ring et de pratiquer quelques prises pour voir un peu ce que ça donne. Ouais. Bah déjà, ne serait-ce que prendre un bon petit ATMI pour s'ouvrir les bronches.
un suplex. Hein. Moi, j'ai eu la chance. Si vous voulez faire un vrai test, il faut faire partie de son entourage proche. Mais Pascal Bouter, hein, qui est un commentateur, un arbitre, pardon, très connu de ceux qui traînent dans la sphère française du catch, qui m'a déposé quelques ATMI sur le poitrail. En général, ça vous fait passer le test de savoir si vous êtes fait pour le catch ou pas.
Hein. Ouais, c'est clair, hein, c'est quelque chose. Hein. Donc, ouais. Toutes les prises, ça reste un sport dangereux, pratiqué par des athlètes. Moi aussi, j'ai reçu Tristan Archer il y a peu, là, et j'en parlais avec lui. On parlait pas mal de préparation. C'était vachement intéressant parce qu'on a axé beaucoup l'interview sur justement toute sa préparation physique, son alimentation. Et quand il me parle un peu des bumps, de la manière dont il pratique, que tu répètes 50, 60, 70 fois des German suplex, des Blue Thunder Bomb ou des choses comme ça, là-bas, tu dis que tu as intérêt à avoir un dos déjà en acier trempé.
Et puis,
ça explique aussi tout le côté musculaire des catcheurs pour la plupart. Mmh. Et parce que il y a besoin d'avoir cette anatomie
armure de muscles,
voilà, il faut être renforcé musculairement parce que sinon tu tiens pas très longtemps. Alors on parlait d'Angelico qui lui est un gabarit très filiforme.
C'est ça, ouais.
Mais pareil, j'ai eu déjà l'occasion de lire quelques trucs du sud-africain où il explique un peu pareil ses préparations et tout ça. Bah même sur un mec un peu filiforme qui pousse pas trop parce que lui c'est pas dans son catch d'être trop lourd et tout ça. Bah quand il explique un peu les séances de 1h30 à aller se coller dans les cordes et à se prendre des souplesses dans tous les sens, ça fait peur et ça fait mal un peu aussi, quoi.
Ouais, bien sûr. Orange Cassidy est pareil, hein. Il est musclé sec, on va dire, entre guillemets. Mais il y a une émission, je pense que toi, ou en tout cas la plupart des auditeurs de Catch Up doivent connaître, que j'aime bien à l'occasion, en mode de popcorn ou en vitesse accélérée. C'est les émissions de Sheamus Workout, où il montre en fait les routines de, même si c'est très très à tendance show WWE, show à l'américaine, où ils sont en mode rigolade, mais c'est intéressant de voir effectivement leurs routines et des routines qui vont être différentes en fonction d'un Tony Nese qui va être très show-off, qui va faire des espèces d'entraînements pour ses abdos qui viennent d'un autre monde, où le mec, en fait, il te fait l'équivalent de ce que tu fais allongé en peinant, en relevant tes genoux pour travailler tes obliques. Lui, il te le fait en étant maintenu sur des barreaux suspendus à je sais pas combien de mètres. Enfin, c'est impressionnant. Et un Daniel Bryan qui va t'expliquer que ses routines ont vachement évolué en fonction de l'usure de sa nuque et tout. Donc, c'est, C'est intéressant aussi, c'est très instructif même d'un point de vue, je dirais presque médical et anatomique.
C'est comme Goldberg, là, ils avaient sorti un mini-docu sur ouais. Work, c'était 54 ou un truc comme ça, parce qu'il avait 54 ans, je sais pas. Et c'était sa préparation pour WrestleMania, il me semble. Et il montrait qu'il faisait de la cryo, qu'il avait un chiropracteur qui démolissait les membres et tout ça à l'avance pour les détendre, etc. Le mec avait l'air de vraiment souffrir que pour un match, quoi, ouais. Tu vois.
Et nous, on est là, ouais, ça a duré 5 minutes.
Ouais, ouais. Ouais, nous, ouais, c'est un scandale, c'était un squash match, ça a duré 2 minutes 30, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et le mec, en fait, s'est préparé pendant 6 mois comme un dingue.
T'as aussi les moments magiques qui mixent un peu ce que disait Félix du côté Shibata, aller au bout du bout, et le moment, ce que tu disais tout à l'heure, avec des catcheurs qui continuent malgré tout. Je repense à un bump dont je parle très souvent, qui est un bump entre Marty Scurll et Will Ospreay en vue d'avoir une place pour le titre de Junior qui était détenu par Kushida à l'époque. Et en l'occurrence, il y avait eu une espèce de comment ça s'appelle, Shooting Star accompagné sur le bord du ring, sur l'apron, l'apron. Et ça avait fait beaucoup de débats, dont Jim Cornette. Après, on peut pas lui en vouloir. Non, mais là-dessus, on peut pas lui en vouloir. Est-ce que les catcheurs ne prennent pas trop de risques, quoi, avec ce genre de délire-là ? Et en fait, il s'était explosé le sommet du crâne. Il a vraiment changé de couleur de cheveux, mais littéralement, il pissait le sang. Il avait vraiment il est passé de blond à rouge iroquois, quoi. Et en gros, même après avoir fini le match qui durait encore 10-15 minutes, il est allé continuer provoquer Kushida aux abords du ring, genre on annonce le match ensemble, et genre tu sentais dans le regard de Kushida du style mais mec, mais va te soigner, quoi, va à l'infirmerie, qu'est-ce que tu fous encore là. Et c'est voilà, c'est le genre de moment magique et toujours, comme je dis souvent, de fascination un peu morbide, ouais, où on n'y peut rien, mais parce que c'est en train de se jouer, et voilà. Bon.
Ouais, du coup t'as des émotions contradictoires, parce qu'à la fois tu trouves ça magique et à la fois tu te dis mais putain, le mec vraiment mis en danger, et moi, et entre guillemets, j'ai aimé ça, quoi.
Bah, c'est la fascination des images, puis ça tourne.
C'est cette fascination, cet attrait en fait pour la violence qu'on a tous de manière intrinsèque, quasiment. L'être humain, malheureusement, est construit un peu là-dessus depuis des millénaires maintenant. Donc, moi, ce que je vois en fait sur la préparation des catcheurs et tout ça, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes avec les joueurs de rugby, par exemple, sur tout ce qui est la préparation physique.
Ah ouais, pas ces connaisseurs, ouais.
L'anticipation des chocs, etc. Moi, je viens de ce monde-là à la base, quoi. Moi, j'ai joué de catch, mais j'ai pas pratiqué. J'ai pratiqué le rugby, j'ai pratiqué quelques sports de combat comme le judo, la boxe et tout.
Ah.
Et donc, je retrouve dans le catch, au niveau préparation physique, beaucoup, beaucoup de similitudes. Mais moi, ce que j'aime finalement dans le catch, c'est que les catcheurs, c'est vraiment des êtres particuliers. Parce que ces gars-là, non seulement ils travaillent toute une préparation physique, mais en plus, il y a tout le travail autour de la promo, du micro, du suivi d'une storyline, de l'attitude, de la gimmick, du costume. Et c'est ça que je trouve génial dans cette discipline, en fait. Ouais. C'est que les mecs sont pluridisciplinaires, finalement.
C'est ça. Mais c'est fascinant, hein, parce que te dire, arriver à assurer une promo après un match alors que tu as potentiellement un trauma crânien dans le cornet, c'est des super-héros. Moi, je dis aux gens, maintenant, j'ai plus trop d'hésitation. Et on en parlait avec Félix, bah, justement, sur la fameuse interview dont il parlait au Journal du Geek. C'est des incarnations, en fait. Quand je dis, les gens me disent fascination pour les super-héros Marvel, bah, ça existe en vrai. Hein. Ricochet a pas mal appuyé d'ailleurs sur cette iconographie-là quand il est arrivé à la WWE. Ray
Mysterio aussi.
Ouais, Ray Mysterio, évidemment. Voilà. Dominique aussi. Non, c'est vrai, avec son costume très Avengers. Hein.
Ah ouais, mais Ray Mysterio, il nous avait même fait un Wolverine dans un Triple Mania il y a 2-3 ans, je crois, où il était apparu en Wolverine. J'avais trouvé extraordinaire, quoi.
Celui avec Bandido et tout ça.
Oui, à Bandido. Voilà. Qu'est-ce que j'aime ce mec.
Merveilleux, ce match.
9 minutes. Over the Moon.
Ouais.
Ah, Bandido, j'espère qu'on le verra à la Azteca Underground, lui. Tiens,
ah, mais ouais, parce que là, il est en train de croupir à la ROH et j'imagine du côté Lucha Libre aussi.
Je crois qu'il est encore sous contrat avec la CMLL, donc ça va rester compliqué.
Oui, il est encore sous, ça je te confirme, ouais, qu'il est toujours sous contrat avec la CMLL, mais comme la MLW a pris beaucoup d'avance et a pas mal tracté en fait pour réussir à obtenir des noms sympas pour attaquer la Stake Underground, là ils ont fait signer définitivement, puisqu'il était encore free agent, mais ils ont fait signer King Muertes, qui était Mil Muertes à la Lucha Underground, qui
et
est
ouais.
un powerhouse de chez Powerhouse. Et donc déjà ça c'est une belle nouvelle, mais effectivement Bandido fait partie des catchers que j'aimerais beaucoup beaucoup voir à la Staker Underground.
Ouais, t'es pas le seul.
On est trois. T'es plus ça. Vite ouais. Comme tu dis.
Ça va être plaisir. Ouais, je crois qu'on va on va se refaire des crossovers de review sur la Staker Underground à ce rythme-là.
Mais oui.
Bon écoutez, c'est super les gars, je suis bien content de vous avoir reçu, c'est simple, moi je suis très fan en fait de pouvoir avoir des crossovers comme ça avec les différents confrères des 4 à 4. J'ai déjà reçu Cody, j'ai reçu Sturi, j'ai reçu Nathan que vous avez reçu également.
Ouais.
Voilà, j'aime bien ce mélange en fait, ce mélange auditeur, confrère, catcheur, tout ça, je trouve que c'est vachement intéressant de voir un peu, en plus ça permet aussi de voir votre background et d'où et comment vous êtes arrivé. Bon, que moi je catch up et catch à cast, même si finalement on traite des le même fonctionnement en équipe, on est présent sur à peu près les mêmes plateformes et je trouve que. Et ça fait pas mal de temps en fait qu'on se chasse les uns les autres pour se dire allez, c'est quand qu'on se fait une émission, c'est quand qu'on se fait quelque chose. Donc voilà, le jour est arrivé et dans You Talk Too Much, et je trouve que c'est vraiment sympa de vous avoir, les gars.
Plaisir partagé.
Ouais, mais de catch différents, mais qui sont aussi. Dans
ouais, parce que c'est une de mes dernières ouais. questions. C'était, je voulais savoir un peu quel était votre rapport à ça, justement. C'est-à-dire que. Je sais pas pour vous, mais souvent c'est compliqué quand on est fan de catch. C'est pas quelque chose dont on parle forcément dans la vie publique, on va dire. C'est pas tout le temps quelque chose qui est forcément bien reçu par les gens extérieurs à l'adoration de cette discipline. Et comment vous vivez ça? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes peut-être que vous êtes entouré que de gens fans de catch, mais peut-être que c'est pas le cas non plus.
Alors là, pas du tout.
Non, moi, j'ai un truc qui va vite régler la question. J'ai aucune honte, donc c'est réglé. Non, ce que
j'ai
je veux dire.
Dignité.
Si, énormément, mais j'ai aucune au niveau discrimination genre sociale du genre. Oh, tu regardes, j'en ai rien à cirer. Donc en fait, j'en parle si ça se présente, que ce soit à des gens comme Félix qui sont hyper éclairés ou à des gens qui connaissent pas. Très souvent, ça les fascine, mais très souvent, malheureusement, on revient à la même chose. Et on en parlera à la toute fin pour une petite annonce d'une exclue à venir. Il y a cette volonté de dire aux gens, mais les gens souvent vont te dire, bah on a essayé d'écouter vos émissions, même quand vous avez un côté pédagogue et machin, bah on a un peu perdu le fil parce que il y a quand même il faut un background, c'est comme tout domaine, hein, t'emmènes quelqu'un à l'opéra, bah il faut quelqu'un qui te chapote un peu, qui t'explique comment c'est structuré. T'as quelqu'un qui t'emmène à X ou Y sport un peu technique, le curling, bah il faut qu'on t'explique c'est quoi, c'est telle ou telle brosse, pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont alignés de telle manière. C'est comme tout, ça demande une forme d'investissement. Certains vont passer le cap, d'autres pas, mais c'est toujours comme ça que ça se joue. En tout cas de mon côté, moi j'ai aucun souci et aucun scrupule à en parler, même si les gens après me regardent en mode genre dédain, genre fais bah écoute comme tu veux, hein. Moi il y a des trucs.
Les gens qui te regardent et dès que tu parles de catch et qui te retirent direct 75 points de QI.
Mais après en général, moi j'ai tendance quand je parle des choses pas que le catch à quand même les croiser et pas du tout par pour frimer la gueule aux gens, mais j'ai une tendance à un peu évaluer la personne qui est en face de moi et de dire tiens tel truc ça va faire vibrer. Si je sais qu'elle est fan de jeux vidéo, je vais dire ouais tu vois c'est comme dans tel jeu Capcom, dans Resident Evil, en fait les mecs ils font des prises de catch même pendant le truc, tu vois, dans Resident Evil 4 il y a des suplexes quoi, Léon il place des suplexes au perso, il place des espèces de dropkick, enfin des trucs, ou alors si la personne, je sais que la personne est très smart. J'écoute que France Culture et machin. Bon, il y a des gens très bien qui écoutent que France Culture. Mais je vais lui dire, Roland Barthes, il parlait de machin. Ou tu sais qu'il y a eu des croisements avec des... on parlait de Laure et Raphaël avec des types de catch qui sont quasiment proches du... de, pas de l'opéra, mais du... Kabuki, merci, japonais. Donc voilà, je vais avoir une tendance comme ça à évaluer la personne et à la renvoyer vers des trucs qui vont lui plaire. Et puis si elle veut pas, elle veut pas.
La réalité, c'est que de toute façon, le cinéma regorge de moves, de catch dans tous les films d'action, dans tous les films. Tu retrouves tout un tas de prises de catch. D'ailleurs, c'est souvent, moi je rigole avec ma fille aînée ou je sais pas, je vais regarder un film et c'est là, je vais, ah tiens, une power bomb, ah tiens, un dropkick. Tu vois, ouais, il y a un truc. Et toi, Félix, alors, est-ce qu'on t'a déjà retiré des points de QI juste à l'évocation de l'ignoble sport ?
Ah, c'est possible, c'est possible. Mais franchement, je m'inhibe de moins en moins par rapport à ça. En fait, c'est quand je cherchais un nouveau boulot pour un poste de journaliste quelque part et que je demandais conseil à une connaissance qui était rédac-chef d'un magazine qui s'appelle Histoire, il me semble. Et je lui disais, moi j'ai fait ça, j'ai fait un stage en labo de paléontologie, d'après toi, qu'est-ce que je mets en avant, machin. Il me dit, mais pourquoi tu mets pas en avant le fait que tu fais des podcasts, tu t'écris des trucs sur le catch et tout, sur un sujet aussi technique que ça. Je lui dis, mais non, mais si je fais ça, on va me prendre pour un starbé, quoi. Et il me dit, mais non, au contraire, ça te donne une spécialité, ça montre que tu t'intéresses à un sujet, que tu utilises tes compétences journalistiques et tout pour l'expliquer, et machin, pour transmettre des informations. Donc ça recoupe tes compétences. Et donc j'ai fait, en fait, oui. Et donc, de plus en plus, j'en parle régulièrement en entretien. Je dis, moi je suis fan de ça aussi. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire. C'est ça qui m'a fait choisir le journalisme, parce que c'est vrai. Et j'arrête pas d'essayer de recouper le truc, comme dit Mehdi, de recouper avec le jeu vidéo, etc. Moi, je le recoupe en mode, ce qui me...
Science, bitch.
Ce qui me passionne, c'est de décortiquer un sujet, comme on peut décortiquer, la reproduction chez les espèces de puces d'Afrique du Sud. Moi, c'est le catch, par exemple.
Les castors lapons sont-ils hermaphrodites?
Et puis non, j'hésite de moins en moins à parler de ma passion et tout ça, et vraiment de trouver des truchements, des... Mais si t'aimes ça... par exemple, j'ai un pote qui adore le jeu de rôle, à l'AEW, Chris, tu sais que Brandon Cutler, ouais, c'est un fan ouvertement de Donjons et Dragons. Et il a un super t-shirt avec un dévin. Plus maintenant il a des bonbonnes... Zarma, de trucs qui rafraîchit. Et ça lui a fait découvrir un pan de catch. Il a regardé quelques matchs de ce gars-là, il a trouvé ça cool. Est-ce qu'il va maintenir son intérêt? Pas sûr. Oui. Mais au moins, il a eu une petite introduction et ça fonctionne comme ça.
Je pense que ça fait aussi partie de la culture des fans, pas que de catch, de se dire il faut qu'il y ait une adhésion sans conteste et immédiate. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je suis très content quand quelqu'un aura eu une expérience, m'aura dit j'ai vu ça ou j'ai fait ça, et que peut-être y a le pari que plus tard ça, tiens, j'ai jamais donné de la chance à machin, et comme j'ai été sensibilisé, pourquoi pas, de manière autonome et tout. Mais voilà, vous bloquez pas, c'est un peu un conseil, si je puis me permettre, aux auditeurs de Catch Up. Si la personne n'adhère pas en intégralité, au moins vous lui aurez ouvert son champ de vision. Puis si elle vous a fait confiance au point de regarder et qu'elle aura pris le temps d'eux,
elle mourra déjà... moins bête, comme on dit.
Voilà, exactement, mourra moins bête.
Excellent. En tout cas, je trouve votre manière d'aborder la chose totalement cohérente, et puis ça fait plaisir un peu d'entendre ce genre de choses. Donc c'est parfait. Écoutez les amis, on arrive à la fin de cette émission. On va pouvoir lancer la promo. Et là, ça va être sympa. C'est ça qui est sympa dans les crossovers. C'est tellement sympa. Vous allez pouvoir nous faire la promo Catchacast. Apparemment, t'as une belle annonce en plus, Mehdi. Je sens qu'on va kiffer là. Allez, vas-y. C'est parti pour la promo Catchacast.
Au-delà de l'annonce, ce mec fait du teasing jusqu'au bout. Comme ce cher Félix a aussi d'autres lieux au-delà du Catchacast, je vais peut-être le laisser commencer par ses propres lieux dont il peut parler. Mais sinon, je peux commencer.
Non, ça me va.
Parce que comme tu as d'autres sphères, je me dis autant les mettre
en dehors du Catchacast et de tous les réseaux qu'on a cités au départ et dont je m'occupe.
Que vous allez reciter.
On est venu que pour ça, de toute façon. Voilà. J'ai l'exception catchesque.wordpress.com où de temps en temps j'écris des petits trucs, enfin un peu longs. Sur le catch, ça peut être, voilà, j'ai écrit un article sur en quoi les discours politiques, ça se retrouve dans les promos de catch, dans la manière de faire, la manière de convaincre un auditoire, etc.
Bientôt en featuring avec Clément Vitoric.
voilà, après j'ai aussi d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec le catch, par exemple critiquedemerde.wordpress.com qui est un blog que j'anime avec deux anciens collègues de la formation scénariste. Où on fait des critiques vraiment merdiques, soit merdiques de bons films, soit de films de merde poussés. Voilà, je crois que j'ai rien loupé.
Eh ben écoute, je rembraye. Donc, le Catchacast disponible sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube également pour les replays, non pas rire, mais il fallait la faire, d'émissions et notamment de live qu'on essaiera de reprendre sous des formes différentes, probablement au courant de la rentrée. Sinon, il y a évidemment toutes les émissions d'Es Podcast dont fait partie le Catchacast. Donc, il y a du Suikocast qui est un jeu, un RPG japonais qui a une émission tous les mercredi à 20h pour ceux qui sont sur Twitch. Le lundi, on a le GD Night qui est une émission de game design où on explique pourquoi effectivement quand dans Mario t'as envie d'avancer et de sauter comme ci ou comme ça, c'est pas dû au hasard mais c'est parce qu'il y a un art merveilleux qui s'appelle le game design. Sinon voilà, vous allez voir, comme l'a très bien dit Félix, deathpodcast.fr, ce sera probablement dans votre billet et vous cliquez que si vous avez la flemme, vous copiez-collez. Félix qui allait rajouter.
Oui, j'ai oublié un pan de promo, mais c'est parce que j'ai pas recontinué dessus, mais avec l'été et avec le temps un peu plus libre, je vais pouvoir continuer. Mais j'avais commencé un petit concept podcast qui s'appelle Year in Wrestling, oui. Qui en 5 minutes compile des. C'est que en audio, mais des images d'archives, enfin des images d'archives, des contenus d'archives de catch de tout horizon, que ce soit WWF, WCW, etc. Pour une année entière.
Ça, c'est génial. Vraiment, allez écouter ça. Oubliez même limite le reste de la promo. Allez écouter ça. C'est franchement, c'est 5 minutes de bonheur. Et c'est une time capsule. Vous vous enfermez dedans. Et vous pouvez faire écouter ça à tout le monde. Parce qu'il y a vraiment des croisements avec des extraits de journaux, des trucs de l'époque. Oui. Et ça recontextualise ce qui se passait à l'époque. C'est vraiment très chouette. Et donc, pour terminer, la grosse annonce mégatonne que je promets depuis tout à l'heure. On va se mettre à la vidéo. Moi de mon côté sur certains formats et surtout parce qu'évidemment ça reste la famille avec l'ensemble des gens de Death Podcast et qui dit Death Podcast dit Catchacast et donc avec Félix on a sur le feu des formats de vidéos donc toujours d'analyse de fond mais aussi beaucoup plus on va dire d'initiation un petit peu pour revenir à ce qu'on disait avant de gens qui vont nous dire mais oui mais j'arrive pas à me mettre au catch parce que j'ai pas les bases et donc d'avoir voilà des formats court, impactant et qui donne vraiment les bases sans blabla, sans digression en mode ouais, mais là on n'a pas parlé de Stone Cold, mais là et l'attitude era et machin. Voilà, des trucs basiques qui viennent, parce qu'on s'estime toujours que les podcasts c'est basique, mais en réalité ça devient vite pointu, même sur les premiers qu'on a fait qui expliquaient les concepts. Donc là on aura un truc vraiment simple et qui est un peu dans la continuité de l'héritage de Félix dans son amour de la narration et de l'écriture, de vraiment voilà, transmettre, de vulgariser de ce côté-là. Donc ça, coming soon, on vous en reparlera et ce sera une très bonne excuse pour que vous veniez chez nous et qu'on vienne chez vous et inversement. Voilà.
Super, vous avez une grosse actualité à Kachaka, ça fait plaisir.
Eh bien, écoute, on essaiera d'être à la hauteur, c'est surtout ça qui nous importe.
Eh bien, quant à nous, peuple de catch-up, pour la promo, vous connaissez, vous aussi, nous sommes sur Discord, rejoignez la communauté catch-up. Comme vous, nos amis de Catchacast, on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, PodCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. On est également sur YouTube, si vous êtes là sur la vidéo en ce moment en train d'écouter cette 13e édition de You Talk Too Much, actionnez la cloche. Laissez des commentaires, abonnez-vous et après allez vous abonner à Catchacast, comme ça la boucle sera bouclée. On se retrouve aussi sur Twitter, Facebook, Instagram et puis le site officiel de Catchup, catchup.lepodcast.fr. Voilà, je suis au clair, la totale est faite. Mes chers amis, mes chers Mehdi et Félix, je vous remercie grandement d'avoir accepté cette invitation à You Talk Too Much.
Merci à toi.
Merci.
Et puis, je vous dis à très bientôt de toute façon, parce que mon petit doigt me dit qu'on va pas tarder à se retrouver.
Oui, tout à fait.
Maintenant qu'on est main dans la main, on va plus se lâcher.
Non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Et amour et suplex à vous toutes et à vous tous.
Ah, c'est sur ces bons mots qu'on va vous laisser. Peuple de catch-up, on vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Baby.
Ciao.
Salut Félix.
Salut, salut.
Et salut Peuple de catch-up. Oui, on est comme ça, nous, on sature le fond à la fin des...
Toujours. Je pensais qu'il fallait qu'on attende que le bot nous dise « The record is now over ». Ah, c'est peut-être ça.